Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur la web radio éphémère qui va durer jusqu'à au moins 18h, voire on vous dépassera peut-être un petit peu, en direct du Carrefour numérique à la Cité des sciences et de l'industrie. Alors évidemment nous sommes sur la web radio du libre étant donné que nous sommes sur en plein dans la fête du libre, hein, libre en fête, hein, la 4e édition. Hein. Donc nous avons pas mal de choses à voir ensemble. Alors je rappelle quand même que nous transmettons le signal radio via un serveur Icecast, qui est un serveur qui est très efficace, comme vous pouvez le constater, et qui est aussi libre, évidemment, on va faire tout en libre aujourd'hui. Alors, petite chose quand même à noter, c'est que vous avez la possibilité de vous connecter sur le chat afin que vous puissiez réagir, poser vos questions pendant toute l'émission. Il y a mon ami DJ ici présent qui va faire le médiateur en ligne et qui va jouer un petit peu l'animateur sur ce chat et qui pourra me transmettre après derrière les interrogations que vous pouvez vous poser. Alors, le programme, ça va être assez simple. Hein. On va commencer tout d'abord par quelques mini-reportages dans la première demi-heure qu'ont été réalisés, des mini-reportages et qu'on a fait avec, entre autres, Benoît Cibot, le président de l'APRIL, hein, l'association pour la recherche en informatique libre. Et ensuite aussi, on ira faire quelques micro-trottoirs dans la seule partie qui a lieu en ce moment dans nos locaux. Et DJ va aller faire un petit tour de ce côté pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qui sont les personnes et pourquoi sont-ils à l'installe partie, que viennent-ils faire. Donc voilà, je vous souhaite de suivre un bon moment avec nous. Ce qu'on va faire là, c'est que on va lancer déjà une petite définition du logiciel libre qui nous a été proposé par Benoît Cibot, donc, afin de voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'APRIL.
Le logiciel libre est défini par les quatre libertés. La première liberté concerne le fait de pouvoir être utilisé librement par tout le monde. La deuxième, c'est le fait d'avoir accès à son code source et de pouvoir le modifier, de savoir comment il fonctionne. La troisième concerne le fait de pouvoir le copier, le distribuer à ses amis librement. Et la dernière concerne le fait de pouvoir en faire des versions modifiées, le redistribuer aussi librement. Le tout doit donc se faire sans restriction et sans limitation. On ne peut pas limiter la diffusion ou la modification à une catégorie de personnes. On ne peut pas non plus imposer des restrictions sur la distribution, l'utilisation, la modification.
Bon, alors en tout cas, voilà une définition assez claire, je pense. En tout cas, si vous avez d'autres petites questions, ce sera peut-être le moment de les poser. Sinon, pour la suite du programme, donc la première demi-heure, donc on va faire un petit peu des mini-reportages, des petites, on va essayer de répondre aux questions les plus courantes qu'on peut avoir sur les logiciels libres. Dans la deuxième demi-heure, on va vous proposer donc de nous rejoindre vraiment en masse sur le chat pour pouvoir participer à un petit quiz, histoire de confronter un peu vos connaissances entre vous. À partir de 16h, on commencera la première table ronde où des intervenants parleront un petit peu de ce que sont exactement les logiciels libres et qu'est-ce qu'il en est. Alors il y aura un représentant de Parinux, hein, Emmanuel Seyman, qui est le vice-président de Parinux. Et il y aura aussi Frédéric Couchet de l'APRIL, hein, qui est le directeur général de l'APRIL, hein, d'Association pour la recherche en informatique libre, hein, qui pourront répondre à vos questions. Ensuite, à 17h, on enchaînera sur une autre table ronde, l'économie du libre, pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et donc, on aura aussi de la même façon deux autres intervenants. Alors, on aura une représentante de la société Adaccord qui s'appelle Jamier, hein, qui est une société d'édition de logiciels libres. Et on aura aussi Arnaud Fontaine, qui est un indépendant et qui répondra un petit peu aux questions, savoir comment font, entre autres, les informaticiens pour remplir leur YAML en développant du libre. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais laisser la parole à Gérard là, qui est dans la salle partie, et puis donc il va nous parler un petit peu. Il va aller, je crois, interviewer un usager. Hein, ça doit être ça. Donc je vais me connecter à lui parce qu'on n'est pas dans la même salle, donc on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est.
Gérard en direct de l'install partie.
Voilà Fabrice, oui tout à fait. Ben, écoute, tout à l'heure j'avais un installeur, maintenant j'ai un usager. Il s'agit de Jérémy qui est juste à côté de moi. On est en train de lui installer d'ailleurs une version Linux. Alors moi la première question que j'ai envie de poser à Jérémy, ben, alors c'est en fait il y a deux questions. C'est pourquoi Linux et puis qu'est-ce qui t'a poussé à passer à Linux? T'étais sur quel système avant Linux d'ailleurs?
J'étais sous Windows, Windows XP, comme tout le monde.
Voilà. Et alors qu'est-ce qui t'a poussé à passer sous Linux?
Donc Linux, pourquoi Linux? Bah tout simplement parce que Linux c'est quand même un système plutôt stable. Bon, il y a quand même des petites erreurs, mais c'est pas souvent. Et Windows, j'en ai eu un ras-le-bol, si on peut le dire. C'est à cause des plantages, des erreurs spontanées et des virus trop réguliers. Voilà.
Alors comment ça s'est passé? Tu t'es d'abord documenté sur Linux ou alors tu t'es dit, tu as des connaissances de base ou tu t'es dit non, ben, je vais venir, ils vont m'installer et puis ils vont peut-être m'expliquer ici en fait.
Donc moi en fait j'avais aucune connaissance de base sous Linux, donc j'ai commencé à aller sur Internet, à aller sur des forums et puis des sites spécialisés Linux. Donc ils m'ont expliqué les bases, tout ça, mais j'ai pas fait le pas tout seul de l'installer, peut-être par une peur ou juste sans connaissance, voilà, on sait pas trop quoi. Donc j'ai été sur les forums et puis tout d'un coup je suis tombé sur le site Parinux un jour comme ça et j'ai vu qu'ils organisaient des install parties à la Villette. Donc j'ai pris mes deux bras et puis j'y suis allé et puis là je suis en train d'installer Linux et pour le moment l'installation elle se passe bien, donc voilà.
Alors justement, donc là il t'installe Linux, alors comment ça s'est passé concrètement? Donc t'as mis ton portable, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait dans la procédure d'étape?
Donc j'ai amené mon ordinateur portable, j'ai été pris en main par une personne et elle m'installe Linux. Donc elle met un CD, elle installe Linux et elle explique en même temps si plus tard on a besoin de réinstaller Linux. Donc elle explique les bases et voilà.
D'accord. Et là, donc, tu as un système d'installation. Est-ce que toi, tu serais capable de le refaire pour un ami ou est-ce que c'est vraiment des assistants? Je clique sur suivant et puis au bout d'un moment, tout est installé. J'ai plus qu'à me connecter sur Internet ou ouvrir mon logiciel de traitement de texte et c'est parti, quoi.
Donc là, pour le moment, je vais déjà essayer après en rentrant chez moi de le réinstaller moi-même pour avoir quand même une connaissance. Et après, je dis pas que plus tard, je pourrais peut-être l'installer à d'autres personnes et faire connaître Linux à d'autres personnes.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Jérémy. Et puis, je viendrai peut-être revoir à la fin pour voir si tout s'est bien passé et ce qu'ils t'ont appris. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, Gérard. Merci. Bon, écoute, très bien. En tout cas, apparemment, il y a l'air d'avoir pas mal de monde là, cette install party, donc ça a l'air de bien marcher. A priori, il y a de nouveaux aficionados du libre. Alors, avant de passer à un autre petit reportage, en fait, je suis avec Thomas là, qui s'occupe un petit peu du serveur qui balance le flux radio, donc du serveur Icecast. Alors, j'aimerais simplement savoir, Thomas, si, en gros, comment on fait pour faire sa petite radio chez soi et pouvoir diffuser comme ça sur le net et donc a priori sur toute la planète une émission de radio et pouvoir faire sa petite radio libre et gratuite à la maison.
Oui, alors je pense que c'est assez simple. En fait, vous avez simplement besoin d'avoir un serveur. Donc un serveur situé évidemment dans une zone visible d'Internet, accessible depuis Internet, pour pouvoir diffuser sur Internet. Et à partir de ce serveur, il faut installer donc le service Icecast. Et puis le configurer, c'est pas extrêmement compliqué. C'est un serveur qui va servir en fait de relais pour un stream. C'est-à-dire en fait, il va pouvoir relayer un stream qu'on lui envoie. Donc ça veut dire que derrière ce serveur, il faudra encore un poste qui sera un poste client qui peut être installé d'ailleurs sur un portable ou sur un ordinateur classique, qui va relayer, donc qui va encoder le signal de votre radio et le porter sur votre serveur Icecast, le mettre à disposition de votre serveur Icecast pour qu'il soit diffusé justement le plus largement possible. Voilà, donc en fait c'est très très simple. Si vous cherchez un petit peu de documentation sur justement l'utilisation de ces serveurs Icecast, je signale qu'il y a donc un site qui s'appelle icecast.org qui décrit un peu les évolutions de ce serveur et les différentes configurations qu'on peut lui donner. Et à partir de ça, je pense que votre radio, vous avez surtout à travailler la grille de contenu, ce qui me paraît quand même essentiel.
Alors, à noter quand même, c'est que quand on commence à diffuser même sur le web, ce qu'on va diffuser, théoriquement, il faut faire attention aux droits d'auteur, ce genre de choses. Alors, exceptionnellement, je vous le dis ici, c'est qu'il y aura quelques musiques qui passeront, mais ce sont des musiques libres de droit qu'on peut utiliser. Donc, il y a beaucoup de sites qui existent, musique-libre.com, etc., qui peuvent être comme ça utilisés et diffusés en ligne. Alors, pour info, on a en même temps, je voulais quand même parler un petit peu des partenaires là qui participent un petit peu à cette install party, aux émissions. Donc, je citerai Parinux, l'April, Cerveau, Réseau 2000 et quelques-unes de ce type-là. Alors, en même temps, il faut savoir c'est que nous sommes en plus, non seulement on diffuse la radio, mais en même temps on diffuse derrière un flux vidéo, donc grâce à entre autres à l'association Cerveau. Alors pour pouvoir nous voir en plus derrière, il suffit de se connecter sur http://www.servaux.org. Voilà, là-dessus, vous aurez un lien direct pour accéder au live. Voilà. Bon, alors justement, j'aimerais en profiter. Donc Bruno, il va nous expliquer un petit peu quelle technologie il utilise, Stream Video LAN, donc c'est une technologie française, ça on le sait, donc il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Bonjour. Donc en fait, la technologie qu'on utilise est basée sur l'envoi depuis une machine qui se trouve ici, sur place, vers un autre serveur qui rediffuse ensuite vers ce qu'on appelle les clients, donc les personnes sur l'internet qui souhaitent assister à la conférence en vidéo. Donc c'est basé en fait sur le même principe qu'un serveur Icecast. Donc on a un émetteur, un récepteur qui rediffuse ensuite. Plus précisément sur le logiciel utilisé qui s'appelle VideoLAN, donc c'est un logiciel libre évidemment. Et on utilise également un codec libre. Donc pour le son, il s'agit de l'OGG Vorbis, et pour la vidéo, il s'agit du codec Theora. Pour les détails techniques. Concernant VideoLAN, en fait, effectivement, c'est un projet qui à la base est un projet français puisqu'il a été ça a été initié comme un projet d'étudiant à l'École Centrale de Paris. Et que par la suite, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des participants, des développeurs qui participent à ce projet sur 20 pays, je pense, à travers le monde. Voilà, donc ça, on peut dire, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place, qui est encore tout nouveau pour nous aussi. Mais on avait déjà effectué une première tout court lors d'un événement qui avait été organisé à l'AG45 par Réseau 2000 et d'autres associations, donc qui s'appelait Actin, qui avait eu lieu, si ma mémoire est bonne, je crois début novembre. Donc là, à l'époque, on en avait profité pour diffuser sur le net une émission de Zaléa TV. Qui avait lieu, donc une performance d'artistes qui avait été organisée par Zaléa TV. Donc l'image nous était envoyée par Zaléa TV, qu'ensuite on rediffusait via notre serveur.
D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ces précisions. Alors, j'ajouterais quand même, c'est que en effet, ce sont des technologies libres, que ce soit Icecast ou VLAN, et en plus, elles sont gratuites. Donc, si vous avez un peu de haut débit à la maison et que vous voulez vous faire, passer pour Arthur ou je ne sais quel Michel Drucker ou autre, c'est peut-être le moment, soit de tester un petit peu ses compétences d'animateur radio, on essaye, et ses compétences évidemment d'animateur télé. Alors, oui, Bruno, peut-être une précision.
Oui, alors un petit détail, tout simplement. Pour vous signaler qu'à l'EPN de Pierre Fitte, durant l'après-midi, j'ai pas plus de détails, mais normalement, l'EPN de Pierre Fitte en profite, puisqu'ils participent eux aussi à la fête du libre, pour diffuser sur place le stream vidéo qui part d'ici, donc de la Cité des Sciences.
Ouais, donc en effet, il y a beaucoup de petites institutions, d'associations et tout, qui fêtent le libre aujourd'hui. C'est une manifestation quand même assez populaire. Bon, alors il y a Gérard qui m'appelle. Apparemment, il est en train d'interviewer quelqu'un d'autre. Il a quelqu'un d'autre à nous faire écouter. Gérard en direct de l'Install Party.
Oui, Tout à fait, Fabrice, je te remercie. Ben justement, je suis dans le Carrefour numérique en ce moment, dans l'Install Party. Alors, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, qu'est-ce qu'une Install Party? Ben, c'est simple, hein, chacun se pointe avec son unité centrale ou son portable et procède à l'installation Linux de son choix sous le regard vigilant, bien sûr, d'une équipe de pros. Alors, justement, j'en ai un juste à côté de moi, c'est Alex Guillard de l'association Paris Linux. Alors, Alex, je vois plein de gens partout, plein de portables. C'est vraiment l'Install Party. Alors, comment ça se passe concrètement et qu'est-ce qu'on y fait?
Alors, ce qu'on y fait, c'est comme tu disais, chacun arrive avec sa machine et trouve quelqu'un d'un petit peu plus chevronné pour l'aider à installer, parce que la plupart du temps, il y a soit des problèmes avec un vieux matériel ou des problèmes avec un portable qui a des cartes un petit peu exotiques dessus. Donc, quelqu'un qui a déjà eu ce problème-là ou qui a un petit peu l'expérience d'avoir installé sur beaucoup d'ordinateurs va pouvoir lui apporter son expérience. Donc, au sein de l'association, on a des gens qui aiment bien partager leur passion de l'informatique et des logiciels libres, et bien qui vont partager cette passion-là avec ces personnes qui veulent découvrir le libre ou qui veulent aller plus loin en utilisant à fond leur machine. Donc, ils viennent avec leur machine et quelqu'un de plus chevronné les aide. Et donc, c'est vraiment une journée d'échange assez florissante, parce qu'il y a des gens partout qui viennent avec des grosses unités centrales, des gens qui viennent avec leur modem, ou là où on a une imprimante aujourd'hui, une imprimante Apple qui va essayer de tourner avec un PC. Avec le libre, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc beaucoup de gens posent plein de questions et ils repartent avec des réponses, ça c'est bien.
Alors justement, quelles sont les questions les plus souvent posées par le grand public? Quelles sont leurs attentes, leurs demandes?
La demande évolue pas mal en ce moment, parce qu'il y a quelques années encore, les gens connaissaient pas le logiciel libre et ils voulaient tester. Donc ils venaient avec des ordinateurs très faciles à installer, et en un quart d'heure, 20 minutes, ils installaient sous le regard un peu amusé de la personne chevronnée leur ordinateur. Et puis après, il fallait les accompagner pour qu'ils puissent manipuler. Et de plus en plus, on a des demandes de configuration périphérique, de configuration de logiciels. Les gens sont en train d'utiliser les logiciels libres. L'installation se fait tellement facilement aujourd'hui que les gens le font chez eux et viennent avec des ordinateurs où il y a des petites choses qu'il faut fignoler. Et ils sont obligés de venir et d'être aidés à ce genre d'install party. Et c'est pour ça que en fait, l'install party qu'on avait lancé aujourd'hui, on l'a aussi appelé config party, parce que les personnes expérimentées en fait viennent plutôt aider les gens à configurer leur machine.
D'accord. Donc en fait, au niveau de l'installation, je peux venir avec quel matériel? Enfin, je peux venir avec mon vieux 486. Il faut au minimum un lecteur de CD-ROM. Qu'est-ce qu'il faut comme config de base minimum, hein, parce que maximum ça.
Alors, la config de base minimum, on va dire, il y en a pas, parce que si on veut simplement faire tourner un petit système GNU Linux avec très peu de logiciels, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Maintenant, si on veut faire des activités que la plupart des gens ont lorsqu'ils utilisent l'informatique, c'est-à-dire du traitement de texte, aller sur le web sans que les pages mettent du temps à se dérouler, faire de la webcam, l'impression rapide, bon bah là il faut de la puissance, et donc les machines il y a 3 ans sont très bien pour les logiciels d'aujourd'hui. Un Pentium 3 à 400 tourne très bien, c'est ce que j'ai chez moi, et j'ai les dernières versions j'ai une Mandrake GNU Linux, il n'y a pas de problème, ça tourne bien.
Très bien, je te remercie Alix. En tout cas ici ça foisonne énormément. Je vais redonner la parole à Fabrice. Je vous remercie tout à l'heure pour un autre mini-reportage. Merci.
Merci Gérard. Bon bah apparemment il y a toujours autant de monde à l'install party. Alors en plus t'as pas choisi n'importe qui, t'as choisi quand même le président de Parinux pour l'interviewer. Tant mieux. Bon bah écoutez, on va lancer un petit break et on va reprendre l'antenne incessamment sous peu. Donc on va faire un petit break de musique avec un petit groupe qui n'en veut, et c'est spécial dédicace à ma princesse. alors pour info, bon, c'était Le Bottom, voilà, c'était avec comme titre Gigot Haricot en remix. Merci à eux en tout cas. Bon, en tout cas, je voudrais quand même saluer les personnes qui nous ont joints là sur le chat. Hein. Il y a donc la Cimerbasse de Clermont. Hein. Mais salut Mathias, hein. Je pense que tu sauras un petit peu trouver les questions parce qu'apparemment toute la Cimerbasse entend l'émission. Donc, salut les tous de notre part. Hein, voilà. Bon, sinon, on va enchaîner sur un petit reportage encore sur une question assez classique sur les logiciels libres et qui nous est présentée par Benoît Cibot, qui, je le rappelle, est le président de l'APRIL, l'Association pour la recherche en informatique libre. À toi.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'APRIL.
D'où ça vient ce phénomène justement du logiciel libre ?
En fait, depuis dès les débuts de l'informatique, le logiciel était libre. Dès le départ, les informaticiens s'échangeaient librement leur code source et se prêtaient leur code source pour régler les problèmes qu'ils avaient, qui étaient souvent les mêmes. Par la suite, au début des années 80, la situation s'est inversée. On a commencé à avoir des gens qui ont gardé secret leur code source, qui refusaient l'accès à leur code source, qu'ils gardaient pour eux, et qui ont commencé à créer donc le logiciel propriétaire, qui n'offre pas ces quatre libertés, qui mettent des limitations sur l'utilisation du logiciel. En réaction à ce changement dans l'industrie du logiciel, un certain nombre de personnes ont pris conscience du problème, en particulier Richard Stallman, qui est le fondateur de la Fondation du logiciel libre, qui a constaté que ça posait des problèmes, que c'était pas satisfaisant du tout, et qui a donc défini avec notamment des juristes le logiciel libre et créé une licence de logiciel libre la plus utilisée actuellement, donc la General Public License du projet GNU.
La fameuse GPL donc.
Tout à fait.
Live quiz du logiciel libre.
Et ben voilà, ça y est, il est 15h30, donc on va commencer, on va tester un peu vos connaissances sur le logiciel libre via le chat. Hein, donc je rappelle vous pouvez vous connecter via le site http://www.cité-science.fr/carrefour-numérique. Vous aurez accès au chat et là vous pourrez répondre directement. Hein, on va faire un peu dans l'interactivité. Vous pourrez directement répondre aux différentes questions que nous allons vous poser. Alors, on va commencer peut-être par la première, hein, la plus simple. Voilà, alors j'aurais aimé savoir, soyez bien attentifs à ce que je vais dire, hein, mais j'aurais bien aimé savoir qui serait capable de me donner le nom de l'inventeur de la New GPL. Voilà. Alors, à vous de me dire tout ça. Je vais lancer derrière. La New GPL, oui, on aura compris. Alors on attend vos réponses évidemment sur le chat. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous trouvent. Je suis sûr Mathias qu'à Clermont-Ferrand là, ils doivent savoir là. Bon, même s'ils n'ont qu'à gagner que toute mon estime. Donc je répète la question au cas où, hein, savoir qui est donc l'inventeur de la GNU GPL. Avec un petit indice pour ceux qui ont un peu de mal, travailler au MIT.
Thank you.
Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui savent qui est l'inventeur de la GNU GPL, parce qu'apparemment sur le chat... Ah, monsieur, oui. Alors, attendez, je vais vous donner un micro. Tu tends le micro, s'il te plaît, Thomas. Voilà. Alors, voilà, Thomas, interroge, monsieur.
Stallman ?
Oui, donc, on me dit Stallman, et son prénom ? Voilà, Richard Stallman, oui, c'est une bonne réponse.
Voilà, là, bravo monsieur. Heureusement que vous êtes bravo. Là parce que apparemment à Clermont-Ferrand, ils savent pas trop. Hein.
C'était pas ça. Bon, c'est pas grave, ils ont le temps de réviser.
Bon, bah, c'est pas grave. Bah, ils vont peut-être se rattraper sur la deuxième question. Donc la deuxième question, donc on va enchaîner assez rapidement, puis toujours dans le même sujet. Alors j'espère que ça se... Ah, Clermont vient de répondre. Bah, avec un peu de retard alors. Bon, bah, tant pis. Bah, espérons qu'ils auront un peu plus de chance pour la deuxième question. Donc la deuxième question, je vais la poser assez simplement aussi. J'aimerais simplement savoir d'où vient cette appellation GNU. Voilà. Donc si vous pouviez me répondre là-dessus, d'où vient le GNU? Alors de la savane ou je ne sais où, mais c'est peut-être le moment de nous répondre. Presque ça. C'est pas GNU is Unix, mais c'est presque ça. Hein, à un mot près, quoi. Alors, vous avez un bel indice, là, sur le chat. Alors, normalement, vous devriez trouver assez rapidement, quoi. Il n'y a qu'une réponse partielle, quoi, voire provocatrice, mais bon. Oui, il va falloir peut-être passer... à notre public, parce qu'apparemment à Clermont-Ferrand, ils sont pas encore en phase là. On va passer donc chez nous, hein. Alors je vais interroger quelqu'un peut-être dans la salle sait ce que dire cette appellation GNU. Ah, deux personnes, bon, on va changer de personne, comme ça tout le monde aura participé.
Bon, je change de micro, hop, voilà. Alors donc, GNU, d'où vient cette appellation?
C'est un acronyme récursif.
Bah voilà, bah bravo monsieur, alors, en effet c'est bien ça. Clermont en phase. Eh ben, il était temps. Bon, bah écoutez, bravo en tout cas pour ces deux réponses simultanées. Hein. C'était très bien vu. Bon, bah, on va faire un petit break dans les questions et puis on reprendra tout de suite après. J'en ai encore une bonne petite série à vous proposer. Donc on va enchaîner sur un autre reportage.
Reportage. Avec Benoît Cibot, président de l'April.
Alors, une question classique qui revient assez souvent, c'est qu'on a souvent peur, en tout cas le commun des mortels, hein, je peux en faire partie, on a souvent peur d'être obligé d'être vraiment un informaticien ou quelqu'un de très doué techniquement pour pouvoir utiliser, installer ou simplement, oui, enfin, des logiciels libres.
Il faut bien voir que la plupart des utilisateurs n'ont jamais installé le système d'exploitation sur leur machine. La plupart du temps, ils ont acheté un ordinateur, et le système était fourni avec, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes de vente liée, de logiciels immatériels, mais ils n'ont pas eu à l'installer. Donc ils ne connaissent pas réellement la difficulté d'installer un système d'exploitation. Maintenant, pour indiquer quelle est la difficulté d'installer un logiciel libre, un système d'exploitation libre, il faut bien voir que c'est actuellement plus facile que d'installer un système propriétaire. Pour installer un système GNU Linux, ça se fait en un quart d'heure, une demi-heure, et c'est l'affaire de deux ou trois clics.
Et alors, très facile à installer, et au niveau de l'utilisation, parce que moi, les premières fois que j'ai eu affaire bon, à un système d'exploitation libre, hein, Linux entre autres, j'étais sur une interface qui n'était pas graphique, qui était en texte et autres. Est-ce que maintenant ça a évolué? Est-ce que ça c'est beaucoup plus facile d'accès, d'utiliser des logiciels libres?
Alors il faut bien voir que donc des logiciels libres se sont développés depuis une vingtaine d'années. Au tout départ, c'était des interfaces frustes en mode texte, etc., qui depuis ont évolué vers des interfaces graphiques au fur et à mesure de l'évolution de l'informatique, de la puissance des machines et des développements des logiciels libres, et que maintenant on a des interfaces tout à fait comparables, voire supérieures à celles qu'on peut trouver dans le domaine des logiciels propriétaires. On a aussi un large choix et une diversité incomparable.
Logiciel libre.
Bon, ben on va continuer maintenant un petit peu notre mini quiz. Donc, je rappelle que pour l'instant, ben c'est notre public qui tient la route là, qui a répondu deux fois à la question. Bon, il y a Clermont qui nous suit de près, hein, parce qu'ils ont répondu vraiment pratiquement simultanément. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'on enchaîne derrière sur la suite, une troisième petite question. Donc voilà, la question est simple aussi, toujours à croire que hein, on est très 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 lié à ça, mais j'aimerais savoir quelle fondation soutient la licence GNU GPL. Voilà. Alors à vos claviers ou alors dans le public, si jamais vous avez une idée, vous pouvez toujours éventuellement intervenir. Oui, bravo Clermont là. Clermont enfin, bon, ils ont enfin trouvé, c'est en effet la Free Software Foundation. Fondation, en anglais, je ne prendrai pas l'accent, je n'épargnerai ça. Bon bah bravo en tout cas, ça fait 2 à 1 alors, bravo. On va enchaîner donc, histoire qu'on puisse les partager peut-être un peu plus. Hein. Alors, j'ai une autre petite question alors. Assez simple aussi toujours, hein, mais j'aimerais savoir d'où vient l'appellation Linux. Voilà. Allez, à vos claviers. C'est-à-dire, Clermont, qu'est-ce que tu entends par le prénom de son créateur? Eh ben encore, voilà, bravo Clermont, bon on va faire. Bon, il va aller très vite ce mini quiz. Hein. Oui en effet, non. L'appellation Linux vient en effet du nom de son créateur, hein, qui s'appelle. Ah, il y a une contestation. Enfin, qui s'appelle Linus Torvald, alors à moins qu'on apprenne d'autres choses, là donc DuckX qui aurait quelque chose à nous proposer. Alors on t'écoute. Hein. C'est un pote de Linus qui a trouvé le nom. Pas mal. C'est-à-dire il n'a pas été cherché très loin. Bon, bah, en tout cas, on considère quand même que c'est une bonne réponse, malgré tout. Je ne connais pas le nom du pote de Linus, mais on va faire comme ça. Voilà. Donc, bah, on va passer à une autre question, parce qu'apparemment, là, les réponses se trouvent vraiment rapidement. Alors, on va changer un petit peu de rayon. J'aurais aimé savoir, par exemple, quelle société supporte le logiciel openoffice.org? Voilà. À vos questions. Bravo DuckX, en effet, c'est bien Sun Microsystems. Bon, ben voilà, ça commence. Hein. Ben, pourrais-tu nous dire DuckX d'où tu viens? Non, il vient du 94, hein, c'est ça? Bon, ben écoute, bienvenue et bravo, t'es donc fait. Non, c'est Rayon, bah alors, j'ai là. Gérard, il s'y perd, là, dans sa géographie. Ah, il y a un salut à Cerveau, j'en profite pour le passer. Hein. Bon, bah écoutez, en effet, c'est bien ça, hein, c'est Sun Microsystems, donc, qui supporte le logiciel OpenOffice.org. Alors, je vais passer à la dernière question, vous avez vu, hein, ce n'est pas des questions très compliquées, mais enfin, on va passer à la dernière. Simplement savoir, qui c'est qui pourrait me dire quel navigateur libre commence à faire un peu d'ombre à Microsoft Internet Explorer? Bon, alors là, je pense que c'est peut-être la plus facile d'entre elles et que les réponses vont fuser. Bravo, Petit. Il le répète deux fois pour être sûr qu'on l'a bien vu. Ah ouais, Gérard, il écrit pas assez vite sur le chat. Bah bravo de Kix. Alors Gérard, j'espère que t'as pris les scores et que tu vas nous faire un petit topo là. Non, t'es pas capable.
Si, je crois que Clermont est en pleine forme aujourd'hui. D'ailleurs, il m'a dit qu'il faisait très très beau, donc ça justifie, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, on va leur attribuer un bon 4 points. Je regarderai la mémoire cache, mais non, c'est ça. Bravo Mathias, en tout cas. Bravo.
Ah, d'accord, bon bah très bien. Bah, bravo à Clermont, en tout cas, merci à tous les participants. On va continuer maintenant sur un petit reportage, on va faire un petit break. Et je vous rappelle donc qu'à 16h aura lieu la première table ronde qui parlera de ces logiciels libres et tout avec deux intervenants, Frédéric Couchet, le directeur général de l'Association pour la recherche en informatique libre, et si je ne m'abuse, oui, Emmanuel Seyman, vice-président de Parinux, deux associations qui militent très fort pour justement le développement et la diffusion de ces logiciels. Et je pense qu'ils pourront répondre à vos questions toujours via le chat, et ils pourront évidemment vous éclaircir sur pas mal de sujets, sur pas mal de choses sur ce sujet. Voilà. Allez, je lance un dernier petit reportage pour la suite.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Où puis-je me procurer des logiciels libres?
Alors, il y a l'endroit où on se procure habituellement, en particulier les développeurs et les utilisateurs avancés, c'est sur Internet. Sur Internet, on trouve des logiciels libres en très grande quantité, les dizaines de milliers de logiciels libres qui existent. Il y a des sites spécialisés qui les regroupent. Les gens les trouvent aussi grâce, par exemple, aux CD qui sont copiés par leurs amis. Et puisqu'on peut profiter de cette liberté de copie pour l'offrir à ses amis. Et on en trouve aussi dans les magasins, dans un certain nombre de magasins de distribution d'informatique, voire dans des supermarchés, on peut trouver les distributions GNU Linux disponibles dans ces rayons.
Qui fait partie de l'association Cerveau.
De questions un petit peu parce que ça fuse quand même pas mal sur le chat, donc Réan, je sais pas si ça se présente comme ça, mais on va faire comme si. Oui, en effet, il y a pas mal de monde à la salle partie. D'ailleurs, tout à l'heure, Gérard est allé faire un tour et a été interviewé un usager, un installateur. Bon, je pourrais les relancer juste après, comme ça tu pourras avoir un petit peu, connaître un peu la température de cette install partie. Hein.
Thank you.
Alors, juste parce que à la demande de nos auditeurs, on a, comme on a enregistré tout à l'heure le petit micro-trottoir qu'a fait Gérard dans l'install party, hein, qui se passe juste à côté, on va le remettre, histoire que vous preniez un petit peu la température des lieux là. Allez, c'est parti.
Gérard en direct de l'install party.
Voilà Fabrice, oui tout à fait. Ben, écoute, tout à l'heure j'avais un installeur, maintenant j'ai un usager. Il s'agit de Jérémy qui est juste à côté de moi. On est en train de l'installer d'ailleurs une version Linux. Alors la première question que j'ai envie de poser à Jérémy, ben, alors c'est en fait il y a deux questions. C'est pourquoi Linux et puis qu'est-ce qui t'a poussé à passer à Linux? T'étais sur quel système avant Linux d'ailleurs?
J'étais sous Windows XP, comme tout le monde.
Voilà. Et alors qu'est-ce qui t'a poussé à passer sous Linux?
Donc Linux, pourquoi Linux? Bah tout simplement parce que Linux c'est quand même un système plutôt stable. Bon, il y a quand même des petites erreurs, mais c'est pas souvent. Et Windows, j'en ai eu un ras-le-bol, si on peut le dire. C'est à cause des plantages, des erreurs spontanées et des virus trop réguliers. Voilà.
Alors comment ça s'est passé? Tu t'es d'abord documenté sur Linux ou alors tu t'es dit, t'as des connaissances de base ou tu t'es dit non, ben, je vais venir, ils vont m'installer puis ils vont peut-être m'expliquer ici en fait?
Donc moi en fait j'avais aucune connaissance de base sous Linux, donc j'ai commencé à aller sur Internet, à aller sur des forums et puis des sites spécialisés Linux. Donc ils m'ont expliqué les bases, tout ça, mais j'ai pas fait le pas tout seul de l'installer, peut-être par une peur ou juste sans connaissance, voilà, on sait pas trop quoi. Donc j'ai été sur les forums et puis tout d'un coup je suis tombé sur le site Parinux un jour comme ça et j'ai vu qu'ils organisaient des install parties à la Villette. Donc j'ai pris mes deux bras et puis j'y suis allé et puis là je suis en train d'installer Linux et pour le moment l'installation elle se passe bien, donc voilà.
Alors justement, donc là il t'installe Linux, alors comment ça s'est passé concrètement? Donc t'as mis ton portable, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait dans la procédure d'étape?
Donc j'ai amené mon ordinateur portable, j'ai été pris en main par une personne et elle m'installe Linux. Donc elle met un CD, elle installe Linux et elle explique en même temps si plus tard on a besoin de réinstaller Linux. Donc elle explique les bases et voilà.
D'accord. Et là, donc, t'as un système d'installation. Est-ce que toi, tu serais capable de le refaire pour un ami ou est-ce que c'est vraiment des assistants? Je clique sur suivant et puis au bout d'un moment, tout est installé. J'ai plus qu'à me connecter sur Internet ou ouvrir mon logiciel de traitement de texte et c'est parti, quoi.
Donc là, pour le moment, je vais déjà essayer après en rentrant chez moi de le réinstaller moi-même pour avoir quand même une connaissance. Et après, je dis pas que plus tard, je pourrais peut-être l'installer à d'autres personnes et faire connaître Linux à d'autres personnes.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Jérémy. Et puis, je viendrai peut-être revoir à la fin pour voir si tout s'est bien passé et ce qu'ils t'ont appris. Merci beaucoup.
Au revoir.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
As-tu quelques exemples de logiciels libres qui commencent vraiment à faire leur petit bonhomme de chemin et prendre leur place sur le marché? Entre autres, tu parlais de Firefox, qui est un navigateur, qui fait concurrence quand même, qui commence vraiment à sortir du lot dans tous les navigateurs existants. Mais as-tu d'autres exemples de ce type?
Alors, les logiciels libres les plus connus sont probablement les distributions GNU Linux, donc tous les ensembles de logiciels à base du noyau Linux, mais aussi la suite bureautique OpenOffice.org, et la suite pour aller sur Internet, Mozilla, en particulier le navigateur Firefox qui est effectivement en train de gagner en diffusion.
Bon, alors on va bientôt commencer les tables rondes, hein, d'ici une petite demi-douzaine de minutes. Donc je rappelle que la première table ronde qui a lieu dans 5 minutes, hein, on va dire, concerne justement la question, mais vous avez dit logiciel libre, mais qu'en est-il? Donc il y aura comme intervenant Frédéric Couchet, qui est directeur général de l'association pour la recherche de sur l'informatique libre, et aussi, pardon, Emmanuel Seyman, le vice-président de Parinux, donc deux représentants des deux grandes associations qui essayent de développer un peu le logiciel libre en France. Donc ça a commencé dans 5 petites minutes. Alors en attendant, on va mettre un autre petit son et puis on va enchaîner tout de suite après. À tout à l'heure.
Thank you.
Bienvenue aux tables rondes.
Alors bonjour à toutes et à tous, enfin du moins rebonjour, enfin en tout cas bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je rappelle un petit peu le principe de cette table ronde, hein, donc déjà l'intitulé. Hein. Vous avez dit logiciel libre avec un gros point d'interrogation parce que c'est quand même une interrogation que beaucoup de personnes se posent encore. Donc je vais être assisté évidemment pendant cette table ronde d'Emmanuel Seyman, donc le vice-président de Parinux, si je ne me trompe, qui se présentera plus en détail dans un instant, et de Frédéric Couchet, donc le directeur général d'April, l'association pour la recherche en informatique libre, ça y est, j'y suis arrivé à le dire d'un trait, qui vont nous parler un petit peu du logiciel libre. Alors le principe est assez simple, c'est que vous savez que vous pouvez vous connecter sur le chat, qu'à tout moment vous pouvez poser des questions. Il y a notre ami Gérard alias DJ sur le chat qui va se faire un plaisir de nous les transmettre. Nous on en a préparé évidemment quelques-unes parce que nous aussi on se pose des questions, hein, mais bon, c'est quand même important de leur dire. Alors voilà, je vais quand même laisser chacun des intervenants me faire un petit historique du libre pour commencer cette table ronde. Simplement me donner d'où ça vient, ne serait-ce que l'appellation et même le concept du logiciel libre. Alors, vous avez des micros, messieurs, enfin du moins un pour le moment. Et vous pouvez donc, je ne sais pas à qui la parole en premier. Emmanuel va se faire un plaisir en premier de nous faire répondre à la petite question piège. Gérard, c'est bon. Vas-y, je t'en prie.
Alors, le logiciel libre, ça commence dans les années 70, quand une personne qui s'appelle Richard Stallman s'est rendu compte qu'il n'avait pas la possibilité de modifier les logiciels qu'il utilisait. Ce qui l'embêtait un peu, parce qu'il lui arrivait de temps en temps de vouloir rajouter une correction, améliorer une fonctionnalité, et faire tout un tas de trucs qui ne lui était pas possible parce qu'il n'avait pas le code source de l'application en question. Et donc il a décidé de changer tout ça, et il a décidé de créer un système d'exploitation qui serait entièrement libre. Par libre, il entendait quelque chose qu'on peut utiliser comme on le veut, mais dont le code source est aussi disponible, qu'on peut modifier et qu'on peut redistribuer à condition qu'on donne à la personne auquel on le distribue les mêmes possibilités qu'on a eues. Donc c'est-à-dire il fallait le redistribuer, mais avec le code source.
D'accord. Bon ben très bien, en tout cas ça peut comprendre, mais c'est dans les années 70, t'as pas une date alors c'était dans un cadre universitaire ou dans une association qui exactement, peut-être Frédéric, t'as une idée là-dessus?
Il faut bien se rappeler en fait que dans les années avant les années 80, en fait, les programmeurs avaient déjà l'habitude en fait de partager les codes sources des logiciels. En fait, avant le début des années 80, ce qui se passait, c'est qu'en fait les grands constructeurs de machines comme IBM vendaient les machines, mais laissaient à libre disposition les codes sources des machines, et les programmeurs pouvaient donc les modifier, les améliorer, et ça permettait en fait de mieux faire fonctionner le système d'exploitation. Donc finalement, le constructeur s'y retrouvait. Et au début des années 80, il y a eu des procès antitrust, notamment contre IBM, qui ont conduit en fait à la vente séparée du hardware, donc du matériel, et du software, donc du logiciel. Et c'est là où le logiciel propriétaire a commencé à voir le jour, parce que des gens ont commencé à vendre en tant que tel du logiciel propriétaire, avec aucune liberté associée. Et c'est en réaction, je dirais, à cette création de logiciel propriétaire que Richard Stallman, en 1983, tout seul, a lancé un projet qui s'appelle le projet GNU, pour GNU is not Unix, dont le but est de créer un système d'exploitation complet en logiciel libre pour tous les usages. S'entend pour tous les usages, ça veut dire à la fois pour les programmeurs, mais aussi pour les utilisateurs, pour ceux qui veulent jouer, ceux qui veulent faire de la programmation, ceux qui veulent faire du traitement de texte, etc. Donc c'est vraiment en réaction à cette propriétarisation de l'informatique que Richard Stallman a lancé ce projet. Et c'est venu effectivement d'un laboratoire de recherche, parce qu'il faut se souvenir d'une chose en fait. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre, si ce n'est en fait la méthode de développement, la méthode de la recherche scientifique adaptée au développement logiciel en fait. La recherche scientifique, c'est la publication, la transparence, la revue par les pairs. Le logiciel libre, c'est exactement la même chose. On rend public les sources, il y a des pairs qui contribuent, qui valident, qui corrigent, dans un esprit de transparence. Donc finalement, le logiciel libre et la recherche scientifique, c'est la même chose. Donc la formalisation simplement du logiciel libre date du début des années 80, mais en fait le logiciel libre existait avant le début des années 80, et finalement, quelque part, il existe en fait depuis la nuit des temps, où finalement, le principe, c'est que la connaissance doit être diffusée, partagée, pour pouvoir s'enrichir au fur et à mesure des années.
D'accord, bon ben écoutez, c'est très bien. Je vais rebondir quand même sur une question. Moi justement, parce que j'ai commencé moi par des logiciels propriétaires, hein, en tant qu'informaticien, mais j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur, enfin peut-être donner des arguments en la matière, mais pourquoi choisir le libre? Alors j'entends d'un côté pour les développeurs, et d'un autre côté pour les utilisateurs. Pourquoi donc choisir ce concept de logiciel libre? Alors Emmanuel peut-être.
Alors, oui. J'ai tendance à dire qu'il y a deux raisons. Il y a l'une qui est technique et il y en a une autre qui ne l'est pas. La première raison technique, c'est qu'on est complètement indépendant de la personne qui nous a donné le logiciel. Si on a le code source, on peut le maintenir, on peut y rajouter nos fonctionnalités à nous, on peut le corriger nous-mêmes, on peut l'améliorer, on peut faire tout un tas de trucs. Si l'éditeur qui nous a distribué ce logiciel met la clé sous la porte, on ne peut pas nous retirer le code source. Donc on peut continuer à travailler le logiciel, à lui donner vie.
À le faire évoluer en fait, en voilà. Quelque sorte. Ouais.
Il y a aussi une autre raison, c'est qu'on essaye de garantir la liberté de... Pardon.
Oui, plus près du micro, oui, parce qu'apparemment, voilà. Sur le chat, il y a des gens qui ont du mal à entendre. Ah, vas-y, je t'en prie, continue, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, oui.
J'ai été interrompu.
Oui, simplement, donc on en était justement sur la question, donc pourquoi pour un développeur c'était intéressant. Alors, d'utiliser le logiciel
libre. Pour un développeur, il y a tout un tas de facteurs. D'abord, la plus importante, c'est la possibilité de modifier l'application qu'il est en train d'utiliser, de pouvoir vérifier que son logiciel ne va pas effacer le contenu du disque dur dans les 10 secondes qui suivent l'utilisation.
Voir l'espionner peut-être aussi.
Voir bon, l'espionner.
Pas mal d'exemples en la matière. Oui.
Voir mettre un virus, voir tout un tas de raisons. Et il y a un côté partage des connaissances qui fait que en donnant le code source d'un logiciel avec en même temps qu'on distribue le binaire, donc l'exécutable, on peut donner à quelqu'un la possibilité de comprendre le rapport entre le code source et les résultats qu'il génère. On peut lui donner envie d'apprendre l'informatique, on peut lui donner envie de se cultiver dans le domaine de l'informatique, et on peut l'inciter à essayer de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il ne l'avait pas.
Alors moi je rebondirai un petit peu sur cette question, parce que là en effet le fait d'avoir les codes sources, ça permet de vérifier tout ce que tu viens de présenter, mais enfin c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir vérifier ça. Alors pour les utilisateurs lambda, qu'est-ce qui est intéressant par exemple, qu'est-ce qui peut vraiment être intéressant pour lui en tout cas d'utiliser le logiciel libre? Peut-être Frédéric ou Emmanuel, vous avez...
Ce qu'il faut bien voir dans les libertés d'accès au code source et de modification, c'est que même si l'utilisateur n'est pas un informaticien et ne va pas forcément lui-même modifier le code source, ce qui est important, c'est de savoir qui a la maîtrise de l'évolution et des modifications du code source. Et on a deux modèles possibles. On a le modèle logiciel propriétaire dans lequel une entreprise est responsable de l'évolution du code. Donc les rajouts de fonctionnalités vont correspondre forcément à un besoin que l'éditeur considère qu'il a. Par exemple, il considère que telle fonctionnalité qui va lui coûter tant d'euros à développer, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et c'est pareil pour les corrections de bugs. Il va corriger les bugs qui l'intéressent lui en priorité. Et à côté de ça, vous avez le modèle du développement logiciel libre où n'importe quel développeur sur la planète a accès au code source, peut donc rajouter des fonctionnalités qui vont lui correspondre ou corriger des bugs qui vont l'intéresser. Et clairement, aujourd'hui, pour une question d'efficacité, de pérennité, de l'information, de sécurité, il est évident que le modèle de développement logiciel libre est meilleur, tout simplement parce qu'il peut y avoir plus de gens potentiellement qui travaillent sur un code source. Et en outre, on a une indépendance par rapport, effectivement, comme l'a dit Emmanuel, à un éditeur, donc une entreprise par exemple en interne, un gouvernement, peut maîtriser entièrement son système d'information parce qu'il a accès à toutes les informations qui constituent son système d'information. Et quand je faisais tout à l'heure pareil avec la recherche scientifique, il faut bien voir une chose, c'est que le modèle de développement de logiciel libre, c'est on rajoute brique après brique, chacun de façon décentralisée sur Internet, les besoins que l'on a. Comme dans la recherche scientifique, on se base sur ce qui existe déjà, on rajoute la brique qui nous manque et on la remet, je dirais, dans le pot commun du logiciel libre. Et il y a un point essentiel dans le logiciel libre qui est lié à ça, c'est que le logiciel libre répond avant tout à un besoin et non pas forcément à un marché. L'une des grandes forces aujourd'hui du logiciel libre, par exemple, c'est sur des niches. Par exemple, des niches linguistiques. Vous avez un logiciel qui est en anglais ou en français. Vous faites partie d'une minorité culturelle, par exemple, je sais pas, moi, le catalan ou autre, et donc vous voulez votre logiciel en catalan, vous voulez par exemple votre logiciel qui vous permette d'écrire de droite à gauche, etc. Ben, s'il n'y a pas un marché, l'éditeur de chez le propriétaire ne va pas proposer cette version, vu qu'il n'y a pas de marché pour lui. Par contre, dans le cas du logiciel libre, comme il y a un besoin, il y a forcément quelqu'un qui va avoir ce besoin-là, qui va donc être informaticien, qui va modifier le code pour l'adapter à vos situations locales, donc par exemple en rajoutant la gestion de la langue catalan. Et donc on va avoir un logiciel libre qui va gérer le catalan. Et ça, c'est un changement fondamental entre le propriétaire et le logiciel libre. Le propriétaire répond généralement à un marché, là où le logiciel libre répond avant tout à un besoin. Donc il est évident pour qu'un tas de gens sur lesquels il n'y a pas de marché, le logiciel libre est une réponse, donc notamment les pays du Sud.
Alors là, tu viens de dire quelque chose quand même d'assez intéressant. Avant de rebondir sur cette réponse, je précise tout de même que sur le chat ou même dans la salle, hein, tout le monde est invité si jamais il a une question complémentaire ou une information supplémentaire à apporter. Elles seront les bienvenues, hein, on est là pour ça. On essaye de faire de la radio interactive, alors pourquoi pas, hein, allons-y. Alors, je rebondis sur ta question, parce que tu parlais de marché. Alors, quand on parle de logiciel de propriété, en effet, on parle de marché, mais moi, quand j'entends marché, moi, j'entends argent. Alors, est-ce que pour vraiment l'utilisateur lambda, il n'y a pas aussi un intérêt sur le logiciel libre, enfin, j'entends vraiment pour le lambda, du fait que, parmi tous ces logiciels libres, un nombre assez respectable, en tout cas, sont gratuits. Et j'entends par là tous les logiciels libres qui sont les plus connus par OpenOffice.org ou par ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas la relation avec l'argent, le marché, l'argent, est-ce que c'est pas un bonus pour le logiciel libre pour le développer? Non, peut-être une réponse par rapport à ces logiciels libres gratuits. Déjà, peut-être expliquer au public est-ce que tous les logiciels libres sont gratuits, est-ce qu'il y en a que quelques-uns, lesquels sont payants et pourquoi? Donnez un petit peu de raison, même si la table ronde concernera l'économie du logiciel libre. Mais je pense que c'est une notion quand même assez importante à placer dans celle-ci. Hein.
Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le logiciel libre se définit uniquement par quatre libertés. La notion de gratuit, de payant n'intervient pas. Les quatre libertés, c'est la liberté d'utilisation du logiciel libre. La deuxième liberté, c'est la liberté d'étude du logiciel libre, donc de son code source, de son fonctionnement. La troisième liberté, c'est la liberté de modifier le logiciel. Et la quatrième liberté, c'est de redistribuer les versions modifiées du logiciel. C'est ces quatre libertés. La notion d'argent n'intervient pas là-dedans. Quand on se procure du logiciel libre, on peut très bien effectivement le télécharger sur Internet de façon gratuite. C'est clair. Mais on peut aussi acheter, par exemple, une distribution GNU Linux dans le marché à la FNAC ou dans le magasin du coin. Là, on va payer effectivement des logiciels libres, un support, un manuel, donc il y aura un coût. Mais une fois qu'on s'est procuré le logiciel libre, que l'on l'ait acheté ou qu'on l'ait téléchargé gratuitement sur Internet, on en fait ce qu'on veut. Donc il est évident que, par exemple, une entreprise qui veut installer un parc de machines en logiciel libre peut faire très bien le choix d'acheter un CD-ROM, par exemple Mandrake, par poste installé, s'il en a les moyens, ou faire le choix, peut-être par exemple, de télécharger la distribution Mandrake et de l'installer sur tous les postes. Donc ça va être un choix totalement différent. Et ce qui est important de voir, effectivement, c'est que il y a un modèle économique dans le logiciel libre, donc ça va être le sujet de la seconde table ronde, mais que le fait d'avoir une sorte de gratuité par effet de bord du logiciel libre n'est pas la force principale du logiciel libre. La force principale du logiciel libre, c'est la liberté. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des logiciels propriétaires qui sont aussi gratuits. Ça ne les rend pas meilleurs. Je veux dire, la première dose de drogue, souvent, est gratuite. Bah, une fois que vous l'avez, vous allez payer pendant très longtemps les prochaines doses. Et le logiciel propriétaire, c'est souvent ça. On vous donne votre première dose, effectivement, gratuite, et derrière, vous êtes condamné pendant 20 ans à prendre les autres doses derrière. Donc la gratuité, il faut vraiment la prendre avec des pincettes et l'étudier sur le long terme. Et c'est pareil aujourd'hui, par exemple, dans les pays du Sud. Les pays du Sud vont avoir à faire un choix entre, effectivement, des solutions Microsoft, en tout cas, bon, on va dire propriétaires à bas coût, c'est-à-dire qu'ils vont faire du dumping au niveau prix. Donc, si on regarde sur simplement l'investissement de départ, peut-être qu'il sera intéressant de prendre du propriétaire pas très cher. Mais si on regarde sur le long terme, il sera peut-être plus intéressant de prendre du logiciel libre qui, lui, sera gratuit en termes de licence, mais qui nécessitera peut-être un investissement local, etc., plus important. Mais sur le long terme, on sera gagnant. Ce qu'il faut voir, effectivement, sur le long terme, c'est la liberté, c'est la pérennité de l'information et c'est l'indépendance. Aujourd'hui, dans le monde informatique traditionnel, il n'y a pas d'indépendance. La pérennité de l'information, des systèmes d'information dépend d'un seul éditeur unique. Le modèle opposé, c'est effectivement le modèle du logiciel libre.
Bon, en tout cas, tu auras été clair là-dessus, mais enfin, même si on peut quand même considérer que le fait que ces logiciels libres, pour certains, sont gratuits, ça développe en tout cas la diffusion. Alors,
il y a quelqu'un sur le chat IRC qui dit « Firefox n'est pas une drogue
». Oui, je confirme aussi. Hein. En tout cas, enfin, quoique après, on a du mal à s'en passer après l'avoir utilisé. Hein. Je confirme aussi cela. Bon, alors, on va passer à une autre petite question. Alors, je répète, hein, vous avez toujours la possibilité d'envoyer vos questions sur le chat ou même dans la salle. Peut-être des personnes ont une question. Oui, monsieur. Alors, je vais faire passer mon micro. J'ai commencé à traverser les salles. Non, tu fais passer. On va rapprocher, monsieur. Hein, voilà. Donc une question de quelqu'un de la salle. Hein. Je rappelle quand même que nous sommes dans le carrefour numérique de la Cité des Sciences en direct pour la Libre en Fête. Voilà.
Oui, j'ai une question par rapport au poids lourd du marché. Les pollueurs du marché, donc qui sont IBM, qui sont Hewlett-Packard, qui sont
Novell, etc., quel est leur intérêt à mettre sur le marché du code libre? Ce n'est pas des sociétés qui sont particulièrement enclines à faire quelque chose de gratuit.
Ça, c'est une bonne question. Je vais transmettre, c'est Emmanuel. Ouais, tu veux répondre, je t'en prie.
C'est pas parce qu'on est un poids lourd qu'on vend forcément du logiciel. Notamment, IBM a ces jours-ci tendance à se définir comme un fournisseur de services. Ils fournissent des conseils, ils vendent du matériel. Mais le logiciel, pour eux, n'est pas quelque chose dont ils ont envie de faire vraiment la vente. Et donc, pour eux, que le logiciel soit libre ou propriétaire, ça revient un peu au même. Donc voilà.
Bon, alors, bon, très bien. Réponse, peut-être tu as des choses à ajouter, Frédéric, à ce sujet?
Je pense que beaucoup ont des motivations très différentes. L'un des choix d'IBM par rapport au logiciel libre et principalement par rapport au noyau Linux, c'est surtout le fait d'avoir un noyau qui soit présent sur toutes les plateformes de ces matériels d'IBM. IBM, il faut savoir, c'est le seul constructeur qui fournit à peu près toutes les plateformes matérielles qui puissent exister, des gros serveurs à l'embarquer. Et le fait d'avoir un noyau Linux logiciel libre lui permet effectivement de le porter sur chacune de ces plateformes matérielles, donc simplement de rajouter ce dont il a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme le noyau Linux est diffusé sous la licence GPL, en fait, les rajouts que fait IBM retombent dans le pot commun. Donc finalement, les deux s'y retrouvent. C'est clair que c'est pas forcément les mêmes motivations qui sont derrière IBM que derrière Richard Stallman, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans le logiciel libre, finalement, c'est qu'on retrouve des motivations différentes, mais derrière, il y a de la production de logiciels libres, et donc c'est un retour pour finalement tout le monde, en fait.
Bon, alors il y a Gérard qui me fait savoir qu'il y a une question qui est passée sur le chat. Alors Gérard, vas-y, je t'en prie, transmets-nous la question. Alors dis-nous déjà qui c'est qui l'a posée.
Alors celui qui l'a posée, bien sûr, on a le pseudo, c'est Ryan qui est là. Ah ben je vais vous la lire en direct, hein, ça va aller plus vite. C'était justement après Firefox. Hein. Voilà, donc il dit ne faut-il pas insister sur le fait qu'un particulier qui passe en libre et en règle avec la justice, dans le sens des licences bien sûr, sachant que beaucoup de monde ont des logiciels pirates. Alors, est-ce que c'est plutôt dans nos espaces? Oui, parce qu'en fait, ce sont des animateurs, hein, des espaces publics numériques. Voilà, hein, c'est pour resituer le contexte qui dialogue. Voilà, avec.
Bah, il est évident que dans les espaces publics numériques, le logiciel libre a un avantage énorme par rapport au logiciel propriétaire. C'est que dans un espace public numérique où un animateur fait une démo sur un logiciel, à la fin, effectivement, si la personne veut refaire la démo chez lui, ou veut améliorer cette démo, ou veut réutiliser le logiciel chez lui, il va devoir payer une licence qui souvent coûtera fort cher, qu'il ne pourra pas se payer. L'espace public numérique a pu peut-être se le payer parce qu'ils ont eu un prix de gros, etc. Mais le particulier ne pourra pas forcément se le payer. Avec du logiciel libre, par contre, il n'y a pas ce problème-là, effectivement. La démo qui est faite, ou le projet pédagogique qui est fait avec du logiciel libre dans l'EPN, si la personne veut repartir avec, l'animateur prend un CD-ROM, il grave la démo, il grave le projet, il grave le logiciel, et la personne repart avec. Et effectivement, c'est clair que là, c'est une solution évidente pour tous les espaces publics numériques, pour tous les centres effectivement dans lesquels aujourd'hui on montre des logiciels que, en gros, les gens ne peuvent pas utiliser chez eux, sauf à leur dire « faites de la contrefaçon », c'est-à-dire « moi je vous en fais une copie mais vous n'avez pas le droit ». Alors, je rappelle que le terme officiel, c'est pas pirate, hein, c'est contrefaçon, c'est de la contrefaçon, c'est du droit d'auteur. Il faut pas tomber dans la propagande, effectivement, du propriétaire qui dit que la contrefaçon, donc, c'est du piratage, c'est-à-dire laisser entendre qu'il y aurait de mort derrière. Non, c'est de la contrefaçon. Utilisons les termes réellement légaux qui existent et ne tombons pas dans la propagande, effectivement, du système propriétaire qui nous fait croire que les gens qui font des copies illicites de programmes sont forcément des grands méchants.
Oui, je confirme que les pirates n'ont pas tous une jambe de bois et un œil en moins. Bon, d'accord, très bien, nous sommes d'accord là-dessus. Emmanuel, tu veux peut-être rajouter 2-3 détails là-dessus.
Juste un petit détail, c'est que vérifier que les licences sont bien respectées en entreprise, ça coûte très cher, ça prend énormément de temps, c'est énormément d'efforts, et que là c'est un facteur qui n'existe pas avec le logiciel libre, puisque à l'utilisation, tout le monde peut en faire. Et donc, on n'a pas ce coût, on n'a pas cet effort à faire et à fournir.
D'accord. Alors, j'ai passé à une autre question. Alors, peut-être que dans la salle, on prendra une autre question tout à l'heure, mais je vais en placer personnelle, du moins qui va, j'espère, intéresser plus grand nombre que moi tout seul. Donc voilà, j'aimerais simplement savoir qui peut contribuer au développement du logiciel libre et aussi comment. Alors, on va commencer déjà par qui. Alors, Emmanuel, peut-être que tu as une idée à nous soumettre.
Alors j'ai envie de dire que n'importe qui peut le faire. En fait, dans un logiciel libre, il y a des efforts à faire en matière de conception, en matière de test, en matière de développement, en matière de traduction. Et donc, en fait, n'importe qui peut écrire de la documentation, peut traduire le logiciel dans sa langue s'il n'est pas anglais, peut se proposer pour tester le logiciel sur une plateforme sur laquelle les développeurs aimeraient pouvoir faire fonctionner leur logiciel. Donc je pense que n'importe qui peut arriver à contribuer son petit effort, aussi maigre soit-il.
Oui, peut-être Frédéric, tu as des choses à ajouter aussi là-dessus.
Il y a énormément de façons effectivement de contribuer au logiciel libre sans être programmeur, ne serait-ce que déjà que utiliser du logiciel libre, rediffuser du logiciel libre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le logiciel, il y a plein de choses qui ne sont pas faites par les programmeurs. L'écrire de la documentation, c'est un bon exemple, parce que souvent la documentation qui est écrite par un programmeur est écrite dans l'esprit du programmeur et qui connaît son code, qui connaît le fonctionnement de son logiciel et qui, en plus, n'a pas la capacité souvent de se mettre à la place du public, de l'utilisateur. Donc une documentation qui sera écrite par un utilisateur aura généralement beaucoup plus de chances d'être efficace et utile pour un autre utilisateur. Donc un utilisateur qui découvre un logiciel comme, je sais pas, Firefox, The Gimp ou autre, eh ben c'est vrai qu'une de ses contributions, ça peut être par exemple d'écrire une documentation, ou ne serait-ce que d'écrire une fonctionnalité qu'il a trouvée, et qui n'était pas décrite ailleurs, et qu'il fait ça sous une forme de ce qu'on appelle des how-to, donc comment faire, une petite page explicative. Donc contribuer au logiciel libre, il y a plein de moyens de le faire, il n'y a pas forcément besoin de programmer. Et ce qu'on se rend compte en fait, mais c'est normal, c'est comme dans la science, c'est comme partout, quand on donne aux gens la possibilité de comprendre comment fonctionne un objet, quelque chose, ça les pousse à essayer de comprendre, ça les pousse à rentrer dedans et à commencer finalement à devenir des bidouilleurs. Un petit peu comme la personne qui commence à s'intéresser, je sais pas, moi, à la mécanique auto parce qu'il en a marre d'aller dans un garagiste qui lui prend trop cher, etc. Il commence à s'intéresser au minimum, il rentre là-dedans. Ben dans le logiciel libre, c'est la même chose. Comme tout est possible, vu qu'on a accès à toutes les informations qui permettent de comprendre le logiciel, ben il y a des gens qui commencent à s'investir et qui deviennent un peu programmeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des langages de programmation qui sont relativement simples. PHP est un langage de programmation relativement simple. Je veux dire, excuse-moi, mais par exemple...
Non, mais je dis ça, c'est parce que parmi tous ceux qui peuvent nous écouter, bon, PHP, même s'il est assez simple pour un informaticien, ça peut encore paraître assez compliqué, mais... Bon, voilà.
Oui, mais c'est je connais pas mal d'exemples de gens qui ont fait des petits trucs en PHP et qui s'en sortent très bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est simplement comme on donne accès aux gens à toute l'information, à toute la connaissance, en fait ça les motive pour comprendre, pour s'impliquer. Par rapport au logiciel propriétaire où finalement ils ont juste accès à un écran généralement bleu une fois sur deux, bah ça les encourage pas à comprendre, à essayer de savoir finalement comment ça fonctionne, à essayer de participer à ça. Donc le logiciel libre encourage quelque part le partage, la fraternité, le partage de la connaissance.
D'accord. En tout cas, je pense que parmi peut-être nos auditeurs, ça donnera un peu de vocation et puis ça les mobilisera peut-être un peu plus sur le sujet. Parce que c'est vrai que c'est important et ça, je voulais bien l'entendre, c'était que il n'y a pas que les informaticiens qui contribuent en fait au développement du logiciel libre. C'est vrai que par des traductions, par simplement du débugage ou même des envois des suggestions de nouvelles fonctionnalités et autres, c'est un développement.
Ah oui, l'exemple que tu prends est effectivement très important. Si on compare effectivement ce qu'on appelle le rajout de fonctionnalités dans le shell propriétaire et le logiciel libre, c'est le jour et la nuit. Dans le shell propriétaire, en fait, ceux qui rajoutent des fonctionnalités, c'est souvent les équipes de marketing ou commerciales qui estiment que le marché a besoin de telle fonctionnalité. Dans le cas du logiciel libre, vous avez accès directement aux équipes de programmeurs via des systèmes, soit des mailing lists, soit des serveurs web, dans lesquels vous pouvez leur dire « Mais moi, j'utilise votre logiciel et j'aimerais bien voir telle fonctionnalité rajoutée. » Et comme le programmeur est souvent le premier utilisateur de son logiciel, lui, il a tout intérêt, effectivement, à ce que le logiciel soit amélioré. Donc cet accès direct au programmeur n'est pas une garantie à 100% que la demande de fonctionnalité va être ajoutée, mais c'est quand même une garantie beaucoup plus importante que dans le cas de logiciels propriétaires, où finalement, on n'a pas accès aux équipes de développement, sauf en téléphonant au service support technique, par exemple, on a de la musique. Donc cet accès direct aux équipes de développement permet une meilleure prise en compte, en fait, des besoins des utilisateurs. Il y a certains groupes de développeurs qui ont par exemple formalisé le fait que les demandes d'utilisateurs étaient des demandes prioritaires. Donc c'est pour ça souvent que dans le logiciel libre, le logiciel correspond bien à la fois aux besoins des utilisateurs et des développeurs.
D'accord, très bien. Alors Gérard, oui, apparemment ça fuse grave sur le chat.
Il y a Piem qui demande la priorité absolue. Donc on va lui faire plaisir, on va commencer par lui. J'aurais deux questions en fait. Donc la première, l'update des licences Windows tous les ans, donc ne s'apparente-t-il pas un service? Alors, attention, hein. Comment combler le manque à gagner pour un éditeur propriétaire qui voudrait faire du libre?
Oh là, alors peut-être que... En effet, il y avait priorité.
Ouais, non, Bon, on peut demander une explication.
Ouais, on peut demander une explication à Piem.
Ouais.
Donc, Piem, un peu plus de détails sur sa
voilà,
question.
Par contre, il y en a une, oui, pardon. Il y en a une qui m'intéresse de Ryan, parce que là, pour l'instant, on a parlé des logiciels bureautiques, artistiques. Là, il y a un fan de logiciels de jeu. Et il nous dit justement que la course à la techno a largement été, à la technologie, bien sûr, a largement été financée par les gamers qui veulent toujours la meilleure machine pour jouer. Alors, ne faudrait-il pas que Linux pense aux gamers?
Le problème avec le jeu, c'est que c'est l'une des applications logicielles qui est le plus difficile à réaliser. Il y a non seulement du code informatique, et dès qu'on rentre dans des trucs du style des jeux 3D, il y a énormément de physique et de mathématiques à comprendre, donc c'est assez difficile à programmer. Mais on a en plus le fait qu'on a besoin de personnes qui ont des connaissances graphiques, de musiciens pour composer une bande son, et donc c'est quelque chose qui n'est pas uniquement informatique mais qui est aussi artistique, et donc c'est quelque chose que pour l'instant on n'a pas beaucoup vu par rapport à
Enfin, moi, je sais qu'en ce moment, au Carrefour Numérique, là, dans le studio, il y a des présentations, justement, de jeux vidéo. Je suis passé tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une course à la technologie au niveau du jeu, parce que la demande est très forte et le marché est énorme. Hein. Il y a beaucoup de gens là-dessus. Il paraîtrait même que ça dépasse le marché du cinéma dans le monde. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais peut-être que, Frédéric, oui, tu as quelque chose à rajouter par rapport, justement, aux les jeux vidéo libres. Qu'en est-il? Où on en est? Est-ce qu'ils ont du retard? Est-ce qu'ils le rattrapent?
Vas-y. Bon, je suis pas un spécialiste des jeux, mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils le rattrapent par différents projets. Donc là, effectivement, il y a Nekeme, qui est un groupe de développeurs. Là, il y a Capital Games sur Paris qui est en train de développer des jeux 3D, etc. Donc j'ai l'impression que effectivement ça rattrape, mais c'est vrai qu'historiquement il y avait un retard de ce type-là. Mais on peut comparer par rapport au traitement de texte où il y a quelques années, il y avait aussi, on peut dire entre guillemets, un retard qui est aujourd'hui largement comblé. Il faut bien voir que dans le logiciel libre, on construit les choses dans le bon ordre, contrairement peut-être à d'autres. Et c'est un peu comme une grande ville. On a commencé par les infrastructures. On a commencé par mettre le câblage qui fonctionnait bien. Et puis là, on est en train de mettre en fait la maison, la télé, etc. Il y en a d'autres qui mettent la télé, mais sur des fondements pas très fiables. Et donc, ça se casse la gueule très rapidement. Donc, on essaie de construire de cette façon-là. Je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, le logiciel libre pour le grand public est prêt pour quasiment tous les usages. Il y a des projets qui visent par exemple à combler les trous comptabilité professionnelle et particulière. Donc au niveau du grand public, je trouve que c'est relativement prêt à l'usage. On le voit de plus en plus d'ailleurs. Pour la question de Piem, je pense que la deuxième table ronde apportera plus de réponses. Mais j'aurais déjà une première réponse à dire. Il y a des métiers qui doivent changer dans la vie. Les éditeurs de l'échelle propriétaire, rien ne dit qu'ils doivent rester en vie ad vitam aeternam. Il y a des métiers qui ont changé au fur et à mesure des temps. Il est clair que le modèle de développement logiciel libre n'est pas compatible avec un modèle de développement logiciel propriétaire. Et alors, ça concerne très peu de gens dans le monde. Il faut se souvenir aujourd'hui que la majorité des informaticiens qui travaillent dans le monde ne travaillent pas pour faire du logiciel propriétaire ou même pour faire du logiciel libre. Ils travaillent dans des entreprises pour faire du logiciel qui fonctionne, simplement. C'est ce qu'on appelle du logiciel privé, qui n'a pas vocation à être vendu. Et ce logiciel qui est pour l'instant privé, qui n'a pas vocation à être vendu, demain, il pourrait très bien passer en logiciel libre parce que justement il n'a pas vocation à être vendu. Et donc profiter en fait de sa diffusion logiciel libre pour profiter de la mutualisation de rajouts de fonctionnalités et de correction de bugs. Et aujourd'hui il y a des entreprises utilisatrices qui commencent à faire ça. La Massive diffuse des logiciels qu'ils ont développés en interne pour leur infrastructure. Wanadoo fait la même chose. Donc il y a un certain nombre de métiers qui évoluent. Il est clair que le modèle de développement d'éditeur de logiciels propriétaire est incompatible avec le logiciel libre. Et alors, c'est pas très grave.
Alors, j'ai vu que Piem a reformulé sa question pour qu'elle soit plus claire, hein, comment convaincre un éditeur propriétaire de faire du logiciel libre. Mais avant que vous répondiez, moi j'aimerais revenir un petit peu sur justement les jeux vidéo et le logiciel libre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un jeu qui a très bien marché, qui est Counter-Strike, et est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'était plus ou moins du logiciel libre, sachant qu'il a été développé sur le moteur de jeu Half-Life, et qu'il a été développé parce que Half-Life avait distribué son moteur de jeu, et donc qui a été développé par une équipe de gamers et qui s'en est servi. Est-ce qu'on peut pas considérer, par exemple, que ce jeu est un hybride, on va dire, de logiciel libre ou un logiciel libre à part entière? Est-ce que vous avez... Vous connaissez peut-être pas trop le sujet, il faudrait que...
Très honnêtement, je connais pas trop le sujet. Ce qui est clair dans le développement de jeux, il y a deux aspects. Il y a le moteur, et il y a tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a au-dessus. Il y a les personnages, le scénario, etc. Et le moteur peut être effectivement un logiciel libre. Et au-dessus, ça peut être du propriétaire. Et je connais pas le cas Counter-Strike. Je suis pas un gamer. Je suis désolé. Donc je ne sais pas dans quel cadre ils l'ont diffusé. Donc peut-être qu'effectivement le moteur était en logiciel libre et ce qui était au-dessus effectivement était quelque chose de propriétaire. Mais c'est un modèle qui peut être compréhensible et qui permet effectivement de tourner sur des environnements logiciels libres. Mais ceci dit, je suis pas un expert en jeu. Donc
Manuel non plus apparemment. Ah, vous passez les nuits sur les PC, mais pas devant les jeux, quoi. D'accord. Alors bon, on va reprendre la question de Piem quand même qui a fait l'effort de nous la reformuler. Donc, est-ce que ça vous parle de dire, enfin de nous répondre, à savoir comment convaincre un éditeur propriétaire de faire du logiciel libre? Alors personnellement, je sais pas trop. Hein, peut-être le couteau sous la gorge, c'est une méthode, mais à mon avis, il y a peut-être d'autres choses. Non, vous avez déjà eu affaire à des cas de logiciels propriétaires qui sont passés au logiciel libre, peut-être? Non. Manuel, oui.
J'ai eu le cas d'une entreprise qui utilisait un logiciel libre qui avait été énormément modifié, puisque comme c'est un logiciel libre, on a la possibilité de le modifier. Et le problème, c'est qu'on était arrivé à un stade où la version interne du logiciel n'avait plus rien à voir avec la version officielle. Et du coup, pour faire une mise à jour pour des raisons de sécurité, c'était relativement compliqué puisqu'il fallait réappliquer toutes les modifs qu'on avait faites auparavant. Et donc j'ai convaincu la personne responsable de l'entreprise de redonner ses contributions aux développeurs du logiciel en question pour que ça puisse être intégré dans la version officielle pour que le delta entre la version officielle et la version interne soit moins important, ce qui se traduit par un gain pour la boîte en question puisque elle n'a plus autant de modifs à appliquer, il y a moins de gestion à faire de son outil interne puisqu'il y a une partie de la gestion qui a été reprise par les développeurs de l'application en question.
D'accord. Alors moi aussi j'ai un exemple, enfin qui est un peu dramatique entre guillemets. Hein, je m'entends bien. Ben je parle entre autres d'une technologie qui s'appelle la technologie Scold, qui est une technologie de 3D multi-utilisateur sur Internet, qui a été développée à l'origine par Cryo Networks. Et cette fameuse société a déposé le bilan. Bon, tant pis. Hein, voilà, ça arrive à des gens très bien. A déposé le bilan et du coup, le concepteur de cette technologie a voulu faire perdurer un peu son travail parce que c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, d'assez innovant. Peut-être un peu prématuré vu que à l'époque où il sortait, il n'y avait pas encore de haut débit vraiment d'installer. Enfin, même si c'est pas encore le cas, mais un peu partout. Donc, il y avait très peu de personnes qui pouvaient vraiment se connecter à ce genre de monde virtuel. Et donc, il a récupéré la technologie et il l'a passé en libre, hein, en BSD, en licence sous licence BSD, et donc elle est renée de ses cendres, on peut dire, voilà. Donc ça c'était un exemple qu'on peut donner. Bon, alors j'espère qu'on n'est pas obligé à chaque fois de déposer le bilan pour passer du logiciel propriétaire au logiciel libre, mais c'est un exemple comme un autre.
Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que le logiciel propriétaire et le logiciel libre sont quand même deux choses très différentes. Si un éditeur de logiciel propriétaire veut changer de métier, veut changer d'activité et devenir entre guillemets un éditeur d'un logiciel libre et faire du service autour, c'est très bien. Mais s'il veut rester dans son activité qui est de vendre un logiciel propriétaire, il est clair qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt à le passer en logiciel libre. C'est évident. Donc, mais s'il veut faire effectivement changer de métier, adapter son métier à cette situation-là, c'est faisable. Je veux dire, l'exemple qu'on aura dans la table ronde d'après, donc avec la société Adacor, ils développent un outil qui est un outil logiciel libre, ils sont les principaux à le développer. Cet outil est tout de même en logiciel libre, donc c'est pas un outil propriétaire, ils font du service autour, de la maintenance, etc. Enfin, Jamie Eyre l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais ce n'est pas le même métier, il faut bien avoir conscience. Donc il faut, c'est pas simplement de dire je vais diffuser mon logiciel propriétaire maintenant en logiciel libre, c'est je change de métier. Les exemples qu'on vient de prendre, c'est différent. C'est un logiciel qui de toute façon disparaissait, et donc pour continuer à ce qu'il puisse vivre, il est devenu logiciel libre. Mais c'était plus du tout la même activité qu'il y avait autour. Donc c'est des exemples totalement différents.
Bon, en tout cas, je pense que on a répondu à la question de Piem. J'espère que tu as été convaincu, Piem. Faudra que tu nous dises ça sur le chat. Alors je vais revenir à des questions un peu plus pragmatiques, hein, parce que bon, comme on a des auditeurs vraiment cosmopolites et qui vont dans tous les sens, voilà, je vais poser une question assez simple. Où est-ce qu'on trouve des logiciels libres? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Voilà. Alors ça, je pense que vous êtes assez calés pour nous donner toute une série de moyens de se procurer des logiciels libres. Bon, Frédéric.
Bah, je peux commencer. Il y a différents moyens. Il y a effectivement Internet, c'est effectivement la source principale. Il y a les amis, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont des logiciels libres, qui sont vos amis, vous le découvrez quand vous allez à leur maison, vous leur demandez une copie, vous avez légalement le droit de le faire et vous êtes encouragé à le faire. Vous allez dans le commerce, vous achetez des boîtes dans lesquelles il y a des CD-ROM, il y a des manuels. J'irais qu'on trouve les logiciels libres un peu de la même façon qu'on trouve des logiciels propriétaires. Chez le propriétaire, on le trouve effectivement dans le commerce. On trouve chez des amis qui nous en font des copies. Là, c'est illégal. Bah, dans le cas du logiciel libre, c'est légal, c'est encouragé. Donc, trouver des logiciels libres est très simple. Moi, j'étais à Belfort il n'y a pas très longtemps. J'ai dû installer une machine pour un ami. On a été au magasin du coin. On a demandé à avoir les distributions de Linux. Il y avait une Mandrake. On a pris une Mandrake. Ça a coûté, je sais plus, 50 ou 60 euros. Et on a installé la machine. Donc, on trouve du logiciel libre très facilement. Et après, sur Internet, vous avez des sites sur lesquels, comme FreshMeet, par exemple, .net, qui est un site sur lequel il y a une sorte d'annuaire de logiciels libres. Vous pouvez télécharger les logiciels libres après sur Internet. Et en fonction des machines que vous, enfin des systèmes que vous avez installés, c'est plus ou moins simple. Donc, trouver du logiciel libre, c'est relativement simple. Et je dirais que c'est, grosso modo, c'est les amis, c'est Internet, et puis c'est les magasins d'informatique, ou grand public, quoi. Je suppose que dans les carrefours, etc., on en trouve. Par contre, là où on n'en trouve pas, et là où il y a un vrai scandale, par contre, alors je suis désolé, je vais un peu transformer la question, là où il y a un vrai scandale, c'est quand on achète un ordinateur. Quand on achète aujourd'hui un ordinateur dans le commerce, et particulièrement les PC, où qu'on aille, le PC est préinstallé avec un système d'exploitation, qui en l'occurrence est Microsoft Windows. Donc, quand vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous achetez à la fois l'ordinateur et le logiciel. Je rappelle que le logiciel libre est né justement après les procès antitrust où on a imposé la vente séparée de logiciels et de hardware et de matériel. Ben aujourd'hui, dans les carrefours, dans les grands magasins, dans les Darty, etc., on vend du matériel et du logiciel ensemble avec un système qui est préinstallé et le utilisateur n'a donc pas le choix. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour favoriser réellement encore plus la prise de la diffusion du logiciel libre et laisser aux utilisateurs vraiment le choix, c'est que dans les magasins où on vend des ordinateurs, il n'y ait pas de système d'exploitation préinstallé par défaut et que c'est l'utilisateur qui fait la demande en disant ben moi, je veux effectivement tel système. Alors je veux peut-être Microsoft Windows, mais je veux peut-être un système GNU Linux ou un autre. Ou avoir plusieurs systèmes préinstallés et au démarrage de la machine, au premier démarrage, l'utilisateur a le choix d'installer définitivement tel ou tel système. Là, c'est aujourd'hui effectivement le grand frein à la diffusion du logiciel libre, c'est que quand on achète une machine, on a un système préinstallé. Et le deuxième scandale, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs de logiciel libre, quand on achète une machine avec un système préinstallé Windows, on paye la licence Windows, alors qu'on ne va pas l'utiliser. Et il est très difficile de se faire rembourser. Donc là, ce n'est plus un scandale, c'est du racket, tout simplement.
Ben en alors, fait, pardon.
Ah pardon.
En fait, tu viens de répondre à la question de Mathias qui demandait justement le centre de détaxe fonctionne dans les faits. En fait, voilà, la question.
Alors, avant de laisser Emmanuel un peu compléter la réponse, je rappelle que sur le chat, si vous connaissez vous des sites, on peut télécharger des logiciels libres, etc. N'hésitez pas, en tout cas, à les faire passer. Hein, nous, on les retransmettra derrière. Voilà, je te laisse continuer la réponse, Emmanuel.
En plus des amis et de pouvoir trouver des logiciels libres dans les grandes surfaces ou les magasins, etc., il y a des groupes qu'on appelle les LUG, donc les Linux User Group, les groupes d'utilisateurs de Linux. C'est souvent des associations loi 901 qu'on peut retrouver partout en France si vous allez sur le site web de l'AFUL, donc l'Association Française des Utilisateurs de Linux.
AFUL donc. Hein.
Voilà, afuel.org. Vous trouverez la liste de tous les groupes d'utilisateurs de Linux répartis par département. Et donc, vous pouvez aller vérifier quels sont les LUG de votre région et pouvoir aller les voir pour demander qu'on vous grave 1, 2, 3 CD. Parinux, puisque je fais partie de Parinux, propose... des distributions Linux, bien sûr. Donc, on est dans l'install party qui est de l'autre côté du mur, en train d'installer des distributions Linux sur les ordinateurs des gens qui sont venus avec. Mais on propose aussi des CD de OpenOffice. On propose aussi des CD GNUIN. Donc, c'est une collection de logiciels libres pour Windows. Et donc, on vend ces CD aux gens qui peuvent rentrer chez eux et installer sur leur système d'exploitation, propriétaire ou libre, des applications libres.
Alors, je rebondis justement sur la question, sur la réponse en tout cas, plutôt, ouais. Tu parlais de distribution Linux. Alors, je sais que pour beaucoup, en tout cas, on ne sait pas trop déjà que ce que c'est qu'une distribution Linux. Et puis, apparemment, il y en a quand même un certain nombre hein, et on ne sait pas trop laquelle choisir au final. Donc, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus. Hein.
Alors, une distribution Linux, c'est d'abord... un noyau qui est le noyau Linux.
à partir de là, s'appuie sur ce noyau Linux, un ensemble de bibliothèques et d'applications. Et l'ensemble de ces bibliothèques et de ces applications forment ce qu'on appelle une distribution, c'est-à-dire un système d'exploitation qui est prêt et fini. Parce qu'un noyau de, un noyau de système d'exploitation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une distribution, c'est l'ensemble de logiciels et de bibliothèques qui sont fournis avec ensemble pour faire une distribution.
Alors, moi, j'ai entendu parler de distribution de Linux plus ou moins spécialisée pour un usage particulier. Par exemple, la Demudi pour les musiciens. Mm-hmm. Bon, j'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être pour des systèmes embarqués, enfin bon, tout ce genre de choses. Donc, peux-tu nous donner quelques exemples de distributions qui existent et puis peut-être nous donner un petit peu leurs particularités?
Alors, on revient aux avantages du logiciel libre, puisque n'importe qui peut le modifier pour en faire n'importe quoi. On a tout un tas de distributions Linux qui ont chacune leur spécialité. Donc on a la Demudi qui est une distribution qui est surtout orientée multimédia, donc surtout avec des outils de musique et de vidéo. On a des distributions plus générales comme la Mandrake ou la Red Hat, ou la Fedora plutôt. On a des distributions qui, comme la Knopix, sont des live CD. Donc on insère le CD dans le lecteur, on démarre l'ordinateur, et l'ordinateur va booter sur le CD-ROM. Sans toucher au disque dur, on va pouvoir charger le système d'exploitation en mémoire. Et donc on aura un Linux qui tourne alors qu'on n'a rien installé du tout sur le disque dur.
J'ai entendu parler d'ailleurs de distributions de ce type, mais qui étaient sur des clés USB, ce qui permettait de se trimballer avec l'ensemble de ces données, le tout sur une clé USB, voilà. Sur n'importe quelle machine, se booter avec et permettre donc de cette façon d'avoir son mail, d'avoir toutes ces données disponibles sur sa clé.
Il faut un ordinateur relativement récent, puisqu'il faut que l'ordinateur puisse démarrer sur clé USB, mais on a aussi le cas de la distribution qui démarre sur CD-ROM et qui permet de stocker ces données sur la clé USB. Et donc, on peut se trimballer vraiment partout avec sa distribution et ses données.
Alors, c'est un exemple assez intéressant, puis que je connais dans le sens où, dans la classe numérique, donc du Carrefour numérique, on va proposer justement aux élèves qui participent au projet classe numérique de leur distribuer justement une distribution sous cette forme. C'est-à-dire qu'ils pourront travailler ici dans le Carrefour numérique de la Cité des Sciences, mais aussi après retourner directement à leur école ou alors chez eux pour pouvoir continuer sur les travaux sur lesquels ils travaillent. Voilà. Alors peut-être
rajouter quelque chose.
Compléments.
C'est ce que vient de dire Emmanuel, ça illustre effectivement la force du logiciel libre, c'est qu'on va trouver, si on le veut, la distribution qui va correspondre réellement à vos besoins les plus précis. Et finalement, ce qui différencie l'ensemble des distributions, c'est pas tellement les logiciels souvent qui sont installés dessus, c'est plutôt la façon d'installer la distribution, la façon de la mettre à jour. Et ensuite, vous avez des distributions spécifiques. Tu as parlé de Demudi, effectivement, sur le son, mais tu as Freeduke, par exemple, qui est une distribution pour l'éducation. Et à la base, c'est finalement les mêmes logiciels qui sont dessus, simplement, ils sont spécialisés. C'est-à-dire qu'on met en avant plutôt une certaine catégorie de logiciels que d'autres. Et c'est une des forces du logiciel libre. Alors c'est vrai que d'un autre côté, ça laisse une grande catégorie de choix pour lequel le public peut être un peu perdu des fois, et c'est là où les groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres apportent une aide, c'est par leur connaissance effectivement de l'ensemble de ces distributions-là, de leurs spécificités, et permettent de conseiller effectivement le grand public qui est un petit peu perdu. Il faut savoir que quand on va dans les grands magasins, principalement la distribution qu'on trouve, c'est surtout Mandrake, la distribution Mandrake qui est faite principalement par des Français.
D'accord, très bien. Alors peut-être que sur le chat ou même dans la salle, il y a des questions subsidiaires à poser. Non, apparemment tout le monde est clair. Excuse-moi Emmanuel, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Je t'en prie. Ah, il y a une question, oui, attends. C'est pas une question? Alors attendez, tu vas parler dans le micro quand même, c'est quand même mieux, voilà. Alors donc vas-y, déjà présente-toi, ouais. Voilà, et puis tu vas tu vas pouvoir donner quelques compléments.
Allô?
Oui, ça marche.
Oui, donc moi je suis Romain de l'association Cerveau. Donc on organise avec d'autres personnes donc le stream hein, comme ça a été donné. Donc on a dû faire des choix de distribution Linux évidemment, nous aussi. Donc je passe rapidement sur le fait que pour un PC normal on utilise une Debian parce que pour la maintenance c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais par exemple on a acquis récemment un AMD 64 Et on a donc installé une Ubuntu, par exemple, qui est une distribution live CD et en même temps qui supporte des plateformes récentes que d'autres distribs ne supportent pas encore. Et donc effectivement, comme il a été dit, on retrouve quasiment les mêmes logiciels avec plus ou moins de jeunesse ou plus ou moins de recul par rapport à l'actualité. Et on permet, elle permet donc de tout faire en fin de compte, comme sauf que c'est mélangé, alors que dans les distribs spécialisés, c'est déjà tout présélectionné. Donc voilà, c'était juste pour.
Oui, non, mais c'est un bon complément. On pourrait même demander à Thomas qui s'occupe de l'encodeur ICE, là, qui envoie sur le serveur IceCast nos données. Sur quelle distribution nous tournons là, chez nous? Je vais pas donner la réponse, autant que ce soit Thomas qui nous la donne.
Ben, nous, on est un petit peu ici, en fait, comme Cerveau, sauf que, en fait, on utilise pratiquement que des Debian, et même pour la même raison que Cerveau, c'est-à-dire la facilité d'administration, la stabilité générale de la des serveurs. Par contre, c'est vrai qu'on rencontre avec Debian des fois quelques problèmes avec des matériels un peu récents, c'est des difficultés, disons, qui sont jamais insurmontables. Parce que je voudrais en même temps ajouter que une grande partie d'ailleurs de la distribution Ubuntu est faite à partir des bases des distributions Debian. Donc en fait, c'est un peu tout le même groupe, hein, mais avec effectivement des spécialisations assez différentes. Voilà.
Alors Ubuntu, c'est quoi Ubuntu? C'est une autre distribution apparemment, c'est ça, hein? Bon, d'accord. Ça, c'est, je voulais que tu me donnes le détail. Bon, ben, on pourrait parler longuement des distributions, parce que, enfin, moi, j'en connais quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a tout un paquet. Ah, j'ai une question, ou un complément peut-être, d'un membre du public de la salle. Vas-y, on vous écoute.
Je voudrais rebondir sur votre remarque sur l'indépendance des États avec l'utilisation de logiciels libres. J'ai entendu dire, enfin, j'ai lu sur l'Internet que l'État français, avec Mondrake et puis d'autres, se sont mis en commun, disons, des efforts afin d'établir un noyau beaucoup plus durci que ce que l'on trouve actuellement. Est-ce que ce noyau durci sera disponible pour tout le monde?
Bah, s'il le diffuse, ce sera disponible pour tout le monde. J'ai absolument pas les détails, hein, donc de ce projet-là, mais je pense qu'effectivement, ça sera disponible pour tout le monde. Hein.
Il me semble que, au moins en partie, les fonctionnalités qu'ils allaient développer allaient se retrouver dans le noyau Mandrake grand public, et que ce serait donc disponible pour tout le monde.
Oui, mais ça me paraît très logique que quelque chose qui soit diffusé, enfin, financé sur des fonds publics se retrouve en logiciel libre. Maintenant, je ne vais pas m'avancer pour le gouvernement français et pour Mandrake. Je pense que si le gouvernement français veut aider le logiciel libre, il y a une façon beaucoup plus efficace d'aider le logiciel libre actuellement. C'est par exemple de se battre contre la directive sur les brevets logiciels. Je pense que ça serait une façon beaucoup plus claire de montrer son engagement vers le logiciel libre. Et là, c'est très simple, hein, il suffit de rappeler à l'ordre le Conseil des ministres européens, et que je rappelle que le candidat Chirac, à l'époque, en 2002, avait pris position très clairement contre la directive européenne sur les brevets logiciels. Et le texte qui est passé il n'y a pas très longtemps, donc au Conseil des ministres européens, est un texte encore plus dur que la version originale. Donc si le gouvernement français veut vraiment aider le logiciel libre, il y a un moyen très simple, c'est de se battre contre la directive brevets logiciels.
D'accord, un petit message en passant, pourquoi pas. Donc bon, on va enchaîner sur une autre question, ce sera la dernière de cette table ronde parce que l'heure tourne et puis il va falloir qu'on fasse quand même un petit break entre les deux. Alors, c'est une question qui peut paraître quand même un peu bizarre, mais moi je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce qui protège le logiciel libre? Étant donné qu'il est distribué partout, qu'il est échangé, qu'il est modifié, trituré sous toutes ses formes, qu'est-ce qui protège ce logiciel libre? Oui, c'était la question piège. Non, je sens la question.
C'est absolument pas la question piège. Le logiciel, le développement logiciel dépend du droit d'auteur. Donc déjà, il faut rappeler un point essentiel, c'est que le logiciel libre, c'est pas du domaine public, c'est pas non protégé comme on le croit, c'est soumis aux règles du droit d'auteur. Les règles du droit d'auteur, par défaut, c'est une règle restrictive, c'est-à-dire que ça interdit aux utilisateurs tout, quasiment. Enfin, à quelques exceptions près, mais en gros, donc, un utilisateur doit demander l'autorisation à un auteur de logiciel ou de musique ou de roman pour faire quelque chose. Et donc dans le logiciel libre, ce qui se passe, c'est que les licences d'utilisation du logiciel libre donnent par défaut aux utilisateurs les fameuses quatre libertés. L'utilisation, l'étude, la modification, la redistribution. Donc c'est ces licences de logiciel libre qui garantissent à l'utilisateur que ce logiciel a ces quatre libertés-là. Alors, il y a une licence un peu spécifique, qui est la licence GPL, donc la GNU General Public License de la FSF, qui couvre à peu près les trois quarts des logiciels libres dans le monde, qui a une petite spécificité qui dit que quand vous redistribuez une version d'un logiciel libre qui est sous licence GNU GPL, vous devez le faire sous les mêmes termes que la licence originale, donc qui doit rester en version GNU GPL. Donc ça, c'est une forme de, on va dire, de protection des quatre libertés qui est supplémentaire, qui est une protection qui a été rajoutée par Richard Stallman et la Free Software Foundation. Et quand on parle de la FSF, d'ailleurs, il est intéressant de noter que dans le projet de Richard Stallman et dans la mise en place, il y a eu deux éléments essentiels qui finalement ont été mis en place ensemble. Et on peut se demander quelque part, c'est quoi le plus grand des deux? Stallman, quand il a lancé le projet, il a lancé deux choses. Il a lancé la formalisation du logiciel libre, il a lancé le projet GNU, c'est-à-dire la production de logiciels libres. L'idée, je vais produire du logiciel libre parce qu'il faut avoir un système d'exploitation de logiciel libre qui soit utilisable. Et en même temps, je vais utiliser le droit d'auteur pour garantir les quatre libertés et protéger ces quatre libertés. Donc il a utilisé le système juridique du droit d'auteur pour garantir les quatre libertés et les protéger. Et c'est cet ensemble en fait de production de code et d'utilisation du droit d'auteur qui a permis, je dirais, la mobilisation de quantités d'énergie incroyables sur Internet. Et quand tout à l'heure tu me disais, je faisais un petit passage sur le brevet logiciel, un petit message, mais c'est pas pour rien en fait, c'est que le droit d'auteur a permis à des gens comme Bill Gates, comme Microsoft, de devenir multimilliardaires en faisant du logiciel propriétaire, et le même droit d'auteur a permis à des gens de produire du logiciel libre. Si la directive sur les brevets logiciels passe, ce ne sera plus possible. La directive brevet logiciel conduira à un monopole qui mettra en danger à la fois les auteurs de logiciels libres, mais également les auteurs de logiciels propriétaires, PME, PMI. Cette directive ne sera favorable qu'à une seule catégorie, je dirais, d'acteurs sur le marché, c'est les éditeurs de logiciels propriétaires qui sont en situation de monopole. Le deuxième acteur qui est favorable, évidemment, c'est les experts, entre guillemets, en brevets, etc., parce qu'il y aura plus en plus de brevets, plus en plus de procédures, donc plus en plus d'argent pour eux. Donc les deux sont liés. Quand je disais que le gouvernement français, s'il veut vraiment aider le logiciel libre et aider l'innovation aujourd'hui, et construire une industrie logicielle européenne pérenne et innovante, il faut qu'ils se battent contre la directive brevet logiciel. Donc c'était pas simplement un petit message comme ça.
Non, j'entends bien, mais c'était juste pour te faire bisquer un peu, histoire que tu réagisses. Ah oui, c'est bien, tu tiens à ton rôle. Emmanuel, peut-être un détail supplémentaire.
Je vais compléter, il y a eu un salon qui s'appelle le CeBIT récemment, la semaine dernière, je crois.
Oui, en Allemagne,
en Allemagne, à Neuf. Et là, un développeur du noyau Linux a profité du salon pour signaler à 13 sociétés qu'elles violaient la GPL puisqu'elles avaient fabriqué du matériel tournant avec le noyau Linux, mais dont le code source n'était pas fourni avec le matériel en question. Et donc, il leur a signalé que c'était tout à fait illégal et qu'il pourrait peut-être avoir des problèmes. Donc voilà.
On est bien protégé quand on fait du logiciel libre ou, en clair, on peut conclure, on peut résumer là-dessus, résumer comme ça.
Oui. Alors, l'un des rôles de la Free Software Foundation, donc de la Fondation pour le logiciel libre, c'est d'aider justement les développeurs dans ce genre de cas dont vient de parler Emmanuel. D'aider les développeurs, effectivement, pour faire respecter leurs droits. Donc, non seulement la base juridique existe, mais il y a aussi des structures, des entités qui sont là pour aider les développeurs, pour faire respecter leurs droits. Et jusqu'à maintenant, effectivement, on a toujours réussi à faire respecter les droits des développeurs. Moi, je suis à titre personnel le représentant de la FSF en France. Donc, on est à l'écoute et à l'aide de tout développeur qui a ce genre de problème-là.
Bah écoutez messieurs, je vous remercie. Alors à moins qu'il y ait d'autres questions sur le chat, Gérard, on va conclure là-dessus, non ?
Non, pas pour l'instant, mais en fait il y a d'autres questions que nous retransmettrons dans la table ronde qui concerne plus l'économie numérique d'ailleurs.
D'accord, l'économie du logiciel libre. D'accord. Et dans la salle peut-être, non ? Une réaction, une question ? Non, a priori. Ah, Emmanuel ?
Il y avait une question sur IRC qui date maintenant d'il y a 10 bonnes minutes, donc malheureusement on la voit plus à l'écran, mais il y a quelqu'un qui se demandait si le monde associatif était suffisamment structurée pour promouvoir Linux auprès du grand public. Je dois vous avouer que moi, je ne me suis pas vraiment intéressé au côté associatif de la communauté Linux jusqu'à il y a deux ans, et que j'ai découvert un monde qui était étonnamment structuré. On a par exemple l'association traduc.org qui regroupe tous les traducteurs de logiciels, donc les traducteurs de GNOME, les traducteurs de KDE, les traducteurs des how-to, etc. Et que pour moi, c'est un monde qui est très structuré, où il y a des associations pour promouvoir un logiciel en particulier, pour promouvoir les logiciels libres d'une manière générale, et que si on veut faire avancer le Schmilblick au niveau Linux, le plus simple, c'est de rejoindre ces associations-là et de voir comment on peut les aider.
En tout cas, je confirme que Parinux a pris, ils font un très bon boulot. On l'a vu avec l'install party et puis sur l'organisation un petit peu de cette émission. Je vous remercie, messieurs. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et une bonne continuation. Nous, on va faire un petit break en attendant la prochaine table ronde qui va avoir lieu dans une dizaine de minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. Et puis, merci à tous. Merci, en tout cas. J'espère que vous resterez avec nous sur le chat. Hein, ça enchaîne aussi sec. Allez, merci. Au revoir.
Bienvenue aux tables rondes. Benoît Cibot, président de l'April.
Beaucoup de personnes se demandent, parce que quand on parle logiciel libre, on parle souvent de Linux. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Linux ?
Alors, la plupart des gens, quand ils emploient le terme Linux, c'est en fait pour désigner un ensemble de logiciels qui forment le système d'exploitation, alors que Linux, à la base, n'est que le noyau, le cœur du système. Donc, si on prend le noyau Linux et l'ensemble de logiciels qui va autour, qui sont majoritairement des logiciels issus du projet GNU de la Fondation du Logiciel Libre, donc j'appellerais l'ensemble une distribution GNU Linux, composée donc des logiciels du projet GNU plus du noyau Linux, et ça, c'est donc un système d'exploitation complet plus un grand nombre de logiciels qui sont disponibles pour l'utilisateur final, qui peuvent servir donc à aller sur Internet, à faire de la bureautique, à faire de l'audiovisuel, des jeux, etc.
Gérard en direct de l'Install Party.
Oui, Tout à fait, Fabrice, je te remercie. Ben justement, je suis dans le Carrefour numérique en ce moment, dans l'Install Party. Alors, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, qu'est-ce qu'une Install Party? Ben, c'est simple, hein, chacun se pointe avec son unité centrale ou son portable et procède à l'installation Linux de son choix sous le regard vigilant, bien sûr, d'une équipe de pros. Alors, justement, j'en ai un juste à côté de moi, c'est Alex Guillard de l'association Paris Linux. Alors, Alex, je vois plein de gens partout, plein de portables. C'est vraiment l'Install Party. Alors, comment ça se passe concrètement et qu'est-ce qu'on y fait?
Alors, ce qu'on y fait, c'est comme tu disais, chacun arrive avec sa machine et trouve quelqu'un d'un petit peu plus chevronné pour l'aider à installer, parce que la plupart du temps, il y a soit des problèmes avec un vieux matériel ou des problèmes avec un portable qui a des cartes un petit peu exotiques dessus. Donc, quelqu'un qui a déjà eu ce problème-là ou qui a un petit peu l'expérience d'avoir installé sur beaucoup d'ordinateurs va pouvoir lui apporter son expérience. Donc, au sein de l'association, on a des gens qui aiment bien partager leur passion de l'informatique et des logiciels libres, et bien qui vont partager cette passion-là avec ces personnes qui veulent découvrir le libre ou qui veulent aller plus loin en utilisant à fond leur machine. Donc, ils viennent avec leur machine et quelqu'un de plus chevronné les aide. Et donc, c'est vraiment une journée d'échange assez florissante, parce qu'il y a des gens partout qui viennent avec des grosses unités centrales, des gens qui viennent avec leur modem, ou là où on a une imprimante aujourd'hui, une imprimante Apple qui va essayer de tourner avec un PC. Avec le libre, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc beaucoup de gens posent plein de questions et ils repartent avec des réponses, ça c'est bien.
Alors justement, quelles sont les questions les plus souvent posées par le grand public? Quelles sont leurs attentes, leurs demandes?
La demande évolue pas mal en ce moment, parce qu'il y a quelques années encore, les gens connaissaient pas le logiciel libre et ils voulaient tester. Donc ils venaient avec des ordinateurs très faciles à installer, et en un quart d'heure, 20 minutes, ils installaient sous le regard un peu amusé de la personne chevronnée leur ordinateur. Et puis après, il fallait les accompagner pour qu'ils puissent manipuler. Et de plus en plus, on a des demandes de configuration périphérique, de configuration de logiciels. Les gens sont en train d'utiliser les logiciels libres. L'installation se fait tellement facilement aujourd'hui que les gens le font chez eux et viennent avec des ordinateurs où il y a des petites choses qu'il faut fignoler. Et ils sont obligés de venir et d'être aidés à ce genre d'install party. Et c'est pour ça que en fait, l'install party qu'on avait lancé aujourd'hui, on l'a aussi appelé config party, parce que les personnes expérimentées en fait viennent plutôt aider les gens à configurer leur machine.
D'accord. Donc en fait, au niveau de l'installation, je peux venir avec quel matériel? Enfin, je peux venir avec mon vieux 486. Il faut au minimum un lecteur de CD-ROM. Qu'est-ce qu'il faut comme config de base minimum, hein, parce que maximum ça.
Alors la config de base minimum, on va dire il n'y en a pas, parce que si on veut simplement faire tourner un petit système GNU Linux avec très peu de logiciels, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Maintenant, si on veut faire des activités que la plupart des gens ont lorsqu'ils utilisent l'informatique, c'est-à-dire du traitement de texte, aller sur le web sans que les pages mettent du temps à se dérouler, faire de la webcam, l'impression rapide, bon bah là il faut de la puissance, et donc les machines il y a 3 ans sont très bien pour les logiciels d'aujourd'hui, un Pentium 3 à 400 tourne très bien, c'est ce que j'ai chez moi, et j'ai les dernières versions, j'ai une Mandrake GNU Linux, il n'y a pas de problème, ça tourne bien.
Très bien, je te remercie Alix. En tout cas ici, ça foisonne énormément. Je vais redonner la parole à Fabrice. Je vous remercie tout à l'heure pour un autre mini reportage. Merci.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Est-ce qu'on a le droit donc de distribuer, de copier, de publier tous les logiciels libres?
C'est la définition même du logiciel libre. Si votre ami a besoin d'un logiciel et que vous disposez de ce logiciel libre, vous pouvez en faire une copie. Si vous pouvez aller chercher sur Internet une copie d'un tel logiciel, vous pouvez donc l'utiliser, le partager, c'est la base du logiciel libre. Et si le logiciel il a besoin d'être légèrement modifié pour être adapté à vos besoins, ça peut être aussi une traduction, c'est aussi possible pour vous de le faire, pour vous ou pour quelqu'un d'autre de le faire pour vous.
Bon, ben écoutez, avant de commencer la deuxième table ronde qui va concerner un petit peu l'économie des logiciels libres, on va juste laisser la parole à l'association Cerveau, donc à Romain ici présent, qui diffuse...
Bonjour.
Qui diffuse en fait un petit peu ces tables rondes en même temps que nous sur la radio, mais eux sur de la vidéo. Hein. Donc, il va nous parler un petit peu de son association, son travail et tout ce qu'il fait aussi lui de son côté pour le logiciel libre. Alors, vas-y, je te laisse te présenter et présenter un petit peu l'association.
Alors, je suis Romain Chantereau. Donc, j'ai aidé avec d'autres à monter l'association Cerveau, qui est en fait une sorte de mutualisation de ressources informatiques. Donc, ça se traduit par un serveur connecté à Internet. Mutualisation de plusieurs acteurs, aussi bien associatifs que privés, pour obtenir à la fin une machine, un serveur dans une salle, dans un data center, une salle connectée à Internet en haut débit, ce qui nous donne et nous affranchir ainsi de tout fournisseur de services quelconque. Nous devenons nous-mêmes notre propre fournisseur de services et nous avons une machine sur laquelle nous avons le contrôle total de A à Z. Qui nous permet donc de pouvoir faire du flux de vidéos sur Internet sans demander rien à personne, de manière totalement indépendante. C'était le but premier, et le but second, c'était en faisant ça, de laisser la liberté à tout le monde de faire ce que chaque personne avait envie de faire. Alors, qu'est-ce que ça traduit ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que généralement, si on a une machine, on est interdépendant les uns des autres des choix d'installation de la machine. C'est-à-dire que si on a un logiciel en version X, et qu'on a besoin de la version Y pour faire quelque chose, mais qu'il y a une autre personne d'association qui, lui, a besoin absolument de la version X parce qu'avec la version Y, ça ne marche plus, d'un seul coup, toute initiative est bloquée, parce que tant que la personne qui est sur la version X n'a pas passé à la version Y, tout le monde est coincé. Donc, on utilise un système qui permet de partager uniquement les ressources matérielles, et chacun a son petit système virtuel dans son coin, et ne demande rien à la personne, sauf à éviter que les gens consomment les ressources uniquement matérielles, sans empiéter sur les autres. Et voilà. Donc d'un seul coup, ça permet de faire du flux vidéo comme on fait, et de laisser d'autres personnes faire autre chose qui n'ont rien à voir, sans pour autant les perturber, ni changer leur comportement en fonction de quelqu'un d'autre. Voilà.
Bon, en tout cas, je peux annoncer que vous allez continuer, vous, même après la dernière table ronde, nous, on arrêtera l'émission de radio, mais vous continuerez sur Cerveau. Rappelle-moi l'adresse http://www.cerveau.org, c'est ça. Et donc, vous continuerez là-dessus pour, en fait, faire un live de l'install party.
Absolument.
Directement là-bas. Bah écoute, je te remercie, et puis donc, on te verra tout à l'heure pour la suite sur
l'antenne.
Donc on va lancer la deuxième table ronde sur l'économie du logiciel.
Bienvenue aux tables rondes.
Alors, comment ça va se passer ? Alors, je rappelle quand même pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, que ce soit dans la salle ou même sur le chat, que nous sommes sur une émission de radio interactive, que nous sommes ouverts et disposés à répondre à toutes les questions qui peuvent... ou même les réactions ou autres qui peuvent intervenir, soit par le chat, soit dans la salle. Il suffira de secouer un peu les bras, je regarderai un petit peu de temps à autre. Donc vous pourrez poser vos questions à nos intervenants, que je vais présenter très brièvement, mais ils se feront un plaisir de se représenter plus en détail dans un instant. Donc il y a Jamie Eyre, qui est de la société Adacor, qui est une société d'édition de logiciels libres. Bon, ça va, mes informations sont bonnes. Il y a Arnaud Fontaine, qui est un indépendant, donc développeur de logiciels libres. Entre autres, on va dire ça comme ça. Olivier Haynes, de la société Nerit, qui fait du conseil d'intégration en logiciel de gestion en entreprise en logiciel libre. Donc, on va pouvoir commencer cette table ronde. Alors, je vais vous laisser vous présenter peut-être plus en détail pour expliquer un peu ce que vous faites, parce qu'on a, ça y est, les titres, mais on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté. Alors, Jamie, je vais te laisser la parole en premier.
Okay.
Alors, parlez bien près du micro.
Donc, Jamie, de la société Adacor. Je suis le responsable marketing et partenariat. Adacor est une société qui développe et supporte un environnement de développement en ADA qui est distribué sous la licence JPL et qui existe maintenant depuis 10 ans.
Olivier Hens, donc directeur de projet au sein de Nerit. Donc nous, on est spécialisé dans la mise en place d'un logiciel libre de gestion d'entreprise qui s'appelle NeoGIA. Et donc, notre travail, c'est d'aider les utilisateurs à comprendre le logiciel et à l'adapter à la gestion de leur entreprise de manière à avoir des gains de productivité.
Bonjour, Arnaud Fontaine. Donc, moi, je suis indépendant depuis presque 7 ans, mais je monte aussi des sociétés en logiciel libre. Mon activité principale, c'est tout ce qui est le travail coopératif, l'activité collective autour des wikis principalement, mais je fais aussi du développement, je fais de l'installation, du conseil, etc., etc.
Ben, je vais vous souhaiter la bienvenue déjà, d'une part, hein, et donc on va traiter pendant cette table ronde justement de l'économie du libre. Alors j'ai commencé la question par une question assez basique, mais qui va un peu introduire la thématique, c'est comment un logiciel libre, qui peut s'avérer parfois gratuit, peut-il rapporter de l'argent ? Alors là, je pense que c'est une question suffisamment vague pour qu'il y ait plusieurs réponses. Alors je ne sais pas qui pourrait enchaîner pour en premier. Ben vas-y Arnaud.
Je vais commencer parce que j'ai le micro en fait.
Oui, ça. C'était un bon, une bonne raison.
Alors, enfin mon point de vue là-dessus, c'est en fait que le logiciel libre, les protocoles ouverts et libres, les formats libres et ouverts, en fait forment surtout un ensemble de communs auxquels on vient tous participer en développant, en faisant de la documentation, en donnant du retour utilisateur, ne serait-ce qu'en l'utilisant, en disant c'est bien. Et donc c'est des communs comme on pourrait imaginer les routes, comme on pourrait imaginer les hôpitaux. Et toute l'économie se fait plus sur le service qu'il y a autour de ça, le conseil, la formation, plutôt que sur une économie de rente telle qu'elle essaie d'exister dans l'industrie du logiciel dit propriétaire. Et donc voilà, en fait, le fait que tous les acteurs économiques dans le logiciel libre participent à la constitution de ces communs, ils participent à l'évolution, à la constitution d'un écosystème, et plus cet écosystème est riche, plus leur activité peut se développer et plus ils s'enrichissent en fait. Voilà.
Oui, donc en fait, c'est une partie de l'économie du libre sur laquelle tu travailles, c'est plus sur...
Bon, en fait, on peut après, avec plus ou moins de bonne foi, de mauvaise foi, l'étendre à tout, hein, mais je vais laisser mes deux camarades.
Oui, je t'en prie. Alors donc, vas-y.
Donc, comment faire qu'un produit peut être gratuit ? Dans le domaine de la gestion, habituellement, le domaine de la gestion, c'est quelque chose de très vaste.
Et, un peu plus près, le micro, s'il te plaît. Oui, pardon,
c'est quelque chose de très vaste. Et il y a deux stratégies pour les entreprises qui cherchent à s'équiper, soit acheter des produits déjà tout faits, soit développer pour eux un développement spécifique. À partir du moment où c'est en logiciel libre, quand ils ont fait développer une pièce de logiciel, ils peuvent l'ajouter au reste des logiciels existants. Et donc, pour le client suivant, il n'aura plus qu'à faire développer les fonctions complémentaires. Donc, le produit en lui-même est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est effectivement comment l'implémenter, comment l'adapter au fonctionnement d'entreprise.
D'accord. Alors, une autre voie, apparemment, parce que c'est vrai que quand on m'a parlé d'une maison d'édition de logiciels libres, j'ai un peu tilté. Donc, Jamie, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu tout ça.
D'accord. Donc, dans le cas d'Adacor, c'est tout simplement en créant un pôle d'expertise, un peu évoqué par mes collègues. Sachant que nos clients cherchent certains critères quand ils sélectionnent un logiciel, que ça soit propriétaire ou libre. Tout simplement, avec le libre, ils ont la possibilité d'avoir une vue sur le développement et vraiment intervenir sur le développement du produit sur le long terme. Ce qui, dans notre cas, est très important dans nos marchés. Par rapport à notre produit qui est GnapPro, c'est une souscription annuelle basée sur le produit technologique et l'apport des experts qui dont leur expertise sur le produit et sur le langage de programmation.
Alors. Bon, on a eu un petit peu trois profils différents, hein, trois manières un peu différentes de gagner sa vie, on va dire, entre guillemets, pour être juste. Mais alors, moi j'ai une question très bête aussi derrière qui suit. Est-ce que ça rapporte ? Est-ce que ça paye suffisamment? Oui, bah alors peut-être Jamie, oui, je t'en prie, réponds à la question.
Juste pour vous donner une petite idée, on a été nominé deux fois dans comment il s'appelle le truc du Figaro et ouais, l'entreprise. Je on a été nominé comme je pense le 8e cette année PME le plus performante de l'Île-de-France. Et les deux ou trois dernières années, on était parmi les 50 PME françaises les plus performantes vis-à-vis du Fast 50 de Deloitte.
D'accord. Donc, ça, ouais. En tant que félicitations, hein, bravo, comme quoi ça peut rapporter. Et pour toi, donc,
donc Olivier, nous, on est en phase de création depuis une petite année. Et donc en termes de tarification, vu que c'est sur du service, qu'on fasse du conseil vis-à-vis du logiciel propriétaire ou du conseil vis-à-vis du logiciel libre, les revenus sont exactement du même type et donc les salaires sont du même type, donc ça rapporte la même chose.
Et est-ce que ça se développe justement? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là qui demandent plus du logiciel libre que des logiciels propriétaires?
Clairement, les clients le demandent de plus en plus. Par contre, il y a toujours pour l'instant encore vis-à-vis des clients un frein quand on annonce une notion de logiciel libre. Et il faut passer beaucoup de temps à essayer de les convaincre qu'effectivement, ils vont se trouver avec une qualité de service plus importante du fait qu'il n'y a pas de partie licence.
Et en Arnaud, fait, que je gagne ma vie ou pas, ça c'est sur 7 ans d'activité, ça c'est variable en fonction du marché. Mais en fait, moi, si je fais un petit retour en arrière sur 7 ans d'activité où j'étais soit complètement indépendant, soit j'ai monté une société, là j'en remonte une autre. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce que je fais du logiciel libre par rapport à faire du logiciel propriétaire, c'est simplement parce que les marchés sur lesquels je suis sont comme ça et évoluent comme ça. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie différence. Sur la demande des clients, moi, il y a quelque chose qui me fait très plaisir sur un contrat récent où le client, qui n'est pas une petite PME d'un adjoint, qui est un gros groupe industriel, a exigé que ce soit du logiciel libre, que ce soit sous une licence connue avec une grande sécurité juridique comme la GNU-GPL, et exiger que ce soit pas un petit projet dans un coin, genre quelque chose qu'on aurait développé nous-mêmes avec nos petites mains, mais un projet qui a derrière lui une grosse communauté d'utilisateurs, une communauté de développeurs, etc. Pourquoi? Parce que ça garantissait une certaine pérennité, bien évidemment, parce que quand vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs, il y a une certaine pérennité. Ça garantit une grande qualité de produits et de services, parce que il va y avoir beaucoup de développeurs soit, mais d'utilisateurs qui vont donner du retour utilisateur, qui vont documenter, qui vont aussi adapter demander d'adapter le logiciel à leurs besoins propres, et ces besoins vont finir par se recouvrir avec le besoin du client, etc. Et aussi une deuxième garantie qu'offre un projet libre avec une grosse base de développeurs et d'utilisateurs, c'est que lorsque le client en a marre du prestataire qui vient faire du conseil, de l'installation, de la formation, etc., elle peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc, elle n'est pas, le client n'est pas prisonnier de son propre prestataire. Ça donne une liberté aussi à ce niveau-là. Et voilà, c'était une exigence. Vous voyez, on s'éloigne de plus en plus de la réticence. Oui, mais il n'y a pas une enseigne marquée avec un M majuscule.
Je dérive. D'accord. Oui, non, mais ça. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a Jamie qui veut compléter.
Je peux ajouter deux mots sur ce que tu viens de dire. En fait, notre société a été créée avec une bourse de l'armée américaine. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Qui ont demandé que le compilateur ADA soit développé et distribué sous la licence GPL. Il y a 10 ans. Il y a un très très grand projet encore une fois pour l'armée américaine que nous venons de gagner, où ils ont demandé que le projet soit développé en du logiciel libre. Donc je pense que de plus en plus on voit des grandes institutions ainsi que les grandes sociétés demandant la liberté, si on peut dire ça, du libre.
D'accord. Alors bon, bah, apparemment, tout le monde se porte bien, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais alors justement, par rapport au logiciel propriétaire, quelle place a le logiciel libre sur les différents marchés qu'il peut y avoir? Et quelle est la courbe d'évolution? Est-ce que ça grimpe? Est-ce que c'est de plus en plus demandé? Apparemment, bon, c'est le cas, mais est-ce que vous avez un peu une idée de la place du logiciel libre dans ce marché?
Je dirais, dans l'absolu, le logiciel libre a la même place que le logiciel propriétaire. Pour nous, c'est clair, comme j'expliquais avant, il y a certains critères qui doivent être remplis pour les besoins de nos clients. Je pense que, en termes marketing pur et dur, je suis un marketeur, mais en termes marketing pur et dur, il y a un peu de travail à mettre en face l'offre du logiciel libre ou du open source vis-à-vis d'une réalité technologique ou autre chose dans des grandes sociétés. Mais je dirais que le logiciel libre va continuer à exploser et va fortement prendre sa place sur le marché du logiciel.
Peut-être un complément, oui.
Non, c'est clair que aujourd'hui les parts de marché dans le domaine de la gestion, par exemple du logiciel libre, sont très faibles du fait de peu de produits qui existent actuellement. Mais du fait de la demande et de la puissance du nombre de développeurs qui se trouvent autour, ça ne peut faire que se développer.
D'accord. Arnaud, oui, peut-être un...
Moi, je vais dire pire. En fait, moi, mon métier, c'est principalement le réseau. En fait, hein, travail coopératif, ça, c'est des activités qui se passent en réseau. On pourrait presque dire le logiciel libre vient d'Internet et Internet vient du logiciel libre. D'accord. Hein, il y a une longue tradition du libre-échange dans le monde Unix qu'il y a. Et on enlève aujourd'hui le logiciel libre. D'accord. Il n'existe plus d'Internet. C'est terminé. Au revoir. D'accord. Donc la part de marché sur ce petit secteur familial qu'est Internet, du logiciel libre, on va dire que c'est 90%. Voilà. Alors après, il y a ce qu'on raconte dans la presse, etc. Bon, on mélange parfois des marchés avec d'autres, donc on fait des recouvrements. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont plus ou moins vrais, plus ou moins faussés, mais la réalité est là. Internet est construit sur du logiciel libre, avec du logiciel libre, et a permis l'essor du logiciel libre. Donc voilà, juste en termes de part de marché, ça, c'est pas mal.
Alors Gérard, apparemment il y a une question qui est passée sur le chat, alors vas-y, je t'en prie, pose
oui.
Nos intervenants.
Alors je sais pas si on va avoir la réponse, donc la question en fait c'est un animateur qui cherche du travail sur Linux parce qu'il en a marre de travailler chez... voilà. Alors il pose la question, est-ce que le marché du travail est favorable au profil de technicien support en fait chez Linux? Voilà. Vous qui êtes dans l'édition, alors je sais.
Oh, apparemment, ils ne doivent pas avoir beaucoup de connaissances chez Linux. Voilà. Peut-être une réponse, si Arnaud.
Ou une piste, au moins.
Une piste. C'est vrai que les systèmes GNU Linux sont de plus en plus employés. Alors, ils sont très employés dans les infrastructures réseau, dans les systèmes d'information. Donc, mais ils ont quand même une grosse concurrence sur ce marché-là avec des systèmes à base de BSD ou des Unix propriétaires. Donc il faut surtout avoir une bonne base Unix en fait avant tout, mais les systèmes GNU Linux sont de plus en plus se développent de plus en plus dans le domaine de l'activité bureautique. Donc c'est clair que il y a une demande de plus en plus forte. Alors aujourd'hui sur le marché français par exemple, le marché du service s'est un peu cassé la figure et là il est en train de reprendre doucement. L'argent ressort un petit peu beaucoup en venant du public, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde? Eh ben il y a beaucoup d'organismes publics qui commencent à faire des migrations complètes de pas seulement de leur système d'information mais toute leur part bureautique vers des systèmes GNU Linux. Donc là, oui, viendez travailler
en réseau avec Arnaud. Bon, très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment?
Non, après, bon, on peut mettre une pointe d'humour, hein, parce que justement, il y a un exemple, c'est, voilà. Demain, je dois installer Linux sur la machine de mes beaux-parents. La seule question qu'on m'a posée, c'est est-ce que mon travail sur Word et Excel pourrait être lu sans rien faire?
Ça, c'est une question. Enfin,
tu veux répondre, la réponse est oui. Il utilise OpenOffice et c'est terminé. Quoi.
Voilà, bon. Alors moi j'ai une autre question. Moi j'aimerais savoir, parce que comme on a affaire quand même à des professionnels, j'aimerais savoir comment on rentre dans le libre, pourquoi vous avez choisi le logiciel libre plutôt que d'aller travailler pour des sociétés ou sur des logiciels propriétaires. Alors quel a été le déclic qui vous a amené à ça?
Dans mon cas et dans le cas de Néréide, ça a été de voir effectivement l'impasse auquel amenaient les logiciels propriétaires au niveau des clients finaux. Souvent dans le domaine de la gestion, les clients ont des petites spécificités, sont obligés de faire quelques adaptations, et ces adaptations survivent très mal à l'évolution des différentes versions. Alors qu'au contraire, ces adaptations sont souvent le fruit d'éléments qui permettent au logiciel de gagner en efficacité. Donc ça démontre bien que le modèle propriétaire qui refuse d'avoir les avantages de toutes ces agrégations de développement complémentaire fait par les clients va dans une impasse, alors que au contraire le libre va permettre de nourrir en permanence la base existante pour avoir un produit de plus en plus adapté aux besoins réels des clients.
Sinon oui, pour Jamie, vas-y, je t'en prie. Quel déclic as-tu eu pour t'attaquer au libre?
Mais tout d'abord, comme j'expliquais, c'était grâce à une bourse. Mais je pense très tôt, c'était une décision parce que en fait, on aurait pu garder les licences, mais on les a fournies à l'arbre du Free Software Foundation, que c'était économiquement une très bonne chose pour nous. Tout d'abord parce que ça nous approchait de notre clientèle. Tout simplement pour vous dire que je dirais 95 à 98% du développement du produit chez nous, c'est grâce à l'intervention de notre clientèle. Je dirais aussi en termes marketing, ça nous a permis de gagner du mind share et du market share que, étant propriétaire, on aurait payé une fortune. Et je pense que moralement, ou peut-être au niveau idéologique, c'était quelque chose que nous souhaitions soutenir très fortement.
Je peux le comprendre. Arnaud, oui.
Moi, il y a...
Bon, même si on peut comprendre,
je peux raconter ma vie aussi, mais oui. Mais en fait, il y a deux aspects. Enfin, pour ma part, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'abord, on va dire, culturel et idéologique, et puis après il y a un aspect pragmatique. L'aspect culturel et idéologique, c'est que moi je suis né avec la micro-informatique, à 8 ans j'avais un micro-ordinateur, et j'ai toujours été dans une démarche d'échange libre. Même si c'était au départ, on ne faisait pas de logiciel libre. Puis quand j'ai très vite été baigné dans la culture Unix, et là, c'est clair, on y était complètement. Donc c'est venu naturellement. Ensuite, je me suis heurté dans ma profession à des gens qui m'ont expliqué que ce que j'avais écrit là, maintenant, c'était à eux et que je pourrais plus l'utiliser. Enfin bref, tout de suite, je me suis dit non, ça, ce genre de démarche propriétaire me convient pas. Donc au revoir. Ensuite, l'aspect pragmatique, je vais donner juste un exemple. Il y a quelques années, j'avais monté une société qui mettait en place un service à destination des salariés, qui s'appelait Choose. Je n'aurais jamais pu monter cette société, qui a fait de l'argent, qui a prospéré, que j'ai revendu. Jamais je n'aurais pu remonter cette société si j'avais pas utilisé du logiciel libre. Jamais je n'aurais eu les moyens financiers, ne serait-ce que ça, d'acheter des licences très chères pour les systèmes que j'aurais pu utiliser. Et puis, jamais je n'aurais pu monter cette société aussi vite, mettre le service en marche aussi vite, si j'avais utilisé des logiciels propriétaires, parce que j'aurais pas profité de toute la synergie de la communauté du libre. Voilà, donc à partir de là, l'affaire était dans le sac. Et là maintenant, quand je monte Crao, c'est pareil, je ne peux pas faire autrement qu'avec du logiciel libre. Même si j'étais contre le logiciel libre, il faudrait tout de suite que j'aille chercher de l'argent pour acheter des licences, etc. Alors que là, à 5 associés avec 1000 euros, on se relance dans une nouvelle aventure. Et puis les produits qu'on utilise et avec lesquels on fait de l'argent, je sais pas combien de temps il m'aurait fallu pour les développer moi-même tout seul dans un coin, même avec l'aide de quelques bibliothèques propriétaires que j'aurais payé très cher, ça aurait pris des années. Donc voilà, c'est une question purement pragmatique qui fait que pour moi, dans mon activité, un autre choix que le libre n'est pas viable.
Ok, ben merci en tout cas pour vos réponses, elles sont bien riches. Alors peut-être que dans la salle il y a d'autres questions ou une réaction, oui monsieur. Alors attendez, on va vous transmettre le micro, on va donner le micro parce qu'on est un peu pauvre en micro aujourd'hui. Voilà,
je vous en prie, posez votre question. À l'un des chefs d'entreprise que vous êtes, est-ce qu'un chef d'entreprise qui a une société qui développe du logiciel, qui a des concurrents qui sont face à lui, est-ce qu'il a intérêt à reverser dans le public ces codes? Pourquoi?
Je pense que là, il va y avoir une réponse claire.
Ben, le plus bel exemple, c'est notre premier client. Nous, quand on a commencé à travailler sur le produit sur lequel on a acquis l'expertise, ça a été pour l'internationaliser. Il était uniquement en anglais, pour le rendre international. Le premier client qu'on a eu, c'est parce que le produit était international. Si on n'avait pas reversé le code, c'était un client allemand, alors que nous, on était en fin fond de la France, jamais il y aurait eu de connexion. Donc, le fait de reverser, c'est vrai que d'autres peuvent effectivement s'en l'utiliser, mais ça a permis effectivement d'avoir un client. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on reverse, ça veut dire une fonction de plus, donc des gens qui sont susceptibles de venir nous voir pour effectivement avoir du conseil sur ce produit-là.
Peut-être une réponse complémentaire de Jimmy.
C'est très intéressant parce que nous sommes en train d'essayer de convaincre de nos partenaires de se mettre au libre. Disons que pour eux, ce serait une très bonne chose parce que immédiatement, vous ouvrez votre produit vers un marché qui auparavant n'était pas ouvert pour vous. Par ça, je veux dire que, surtout dans les outils de développement, vous avez toute une communauté de développeurs qui peuvent aller chercher votre produit, le tester, l'essayer, jouer avec, faire ce qu'ils veulent. Et puis quand ils ont besoin du support et de l'expertise, ils peuvent revenir vers vous. J'imagine que vous avez peut-être des moyens plus traditionnels de faire circuler votre produit en peut-être avec des évaluations, des choses comme ça. Mais si vous voulez, c'est un marché avec le libre qui s'ouvre, qui est global et qui est ouvert 24/24. Et pour nous, c'est clair, on n'aurait pas eu les moyens de diffuser le produit n'étant pas sous GDPR.
Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Je t'en prie.
Bien sûr, je suis bavard. Donc. Alors, je reviens juste sur ce que j'ai dit en introduction. On participe à la constitution de commun. Donc c'est un écosystème qu'on fait évoluer, et c'est dans cet écosystème qu'on fait notre économie et qu'on prospère. Donc quand je participe à l'évolution de l'écosystème, je m'enrichis. C'est la première chose. Ensuite, moi je suis dans une position un peu particulière parce que j'ai une activité dans le cyberespace. Ma société, c'est une vraie société du cyberespace. On est tous répartis, donc on vit là-dedans, on a notre activité là-dedans. Il y a une chose qui est fondamentale dans la société de l'information et dans le cyberespace, c'est ce qu'on appelle l'économie de la réputation. Comment on est connu, par qui on est connu, qu'est-ce que les gens pensent de nous. Le simple fait de participer, de reverser au code. Au pot commun du code qu'on a écrit dans un projet collectif, en fait, qu'est-ce que ça amène? Premièrement, ça amène une bonne image. Donc, notre karma, entre guillemets, monte dans l'économie de la réputation. On devient une référence, même si on a fait une toute petite contribution. Voilà, on devient une référence. Donc, ne serait-ce que localement, sur un territoire donné, les gens vont se dire, ah ben sur tel produit, oui, c'est un tel qu'il faut aller voir, puisque lui il a fait ça dans ce produit, on le sait, ça a été remis au pot commun, on le sait, il est connu là-dessus. Et ensuite, la dernière chose, c'est que le fait qu'on contribue, ça fait une contribution de plus, donc ça amène de l'enthousiasme autour, donc ça amène de nouveaux contributeurs, ça amène de nouvelles contributions, donc ça fait un produit qui s'enrichit, qui devient plus solide, etc. etc. Donc c'est tout bénéfice pour nous. Voilà, ça, je pourrais encore parler deux heures, mais
bon. En tout cas, il y a eu les trois réponses qui, je pense, ont été suffisamment
juste
complètes.
Juste un petit exemple de petite société familiale qui reverse régulièrement pour commun. Ça tient en trois lettres, ça s'appelle IBM. Voilà quoi. Je veux dire, c'est ce qui, c'est un jour ils ont, enfin, un jour, ils ont compris qu'ils changeaient de métier, ils sont tournés vers le logiciel libre, peut-être un peu comme utilisateur, maintenant comme gros contributeur, et ça fait qu'IBM reste un des acteurs majeurs dans l'industrie informatique.
Alors, Gérard me fait entendre qu'il y a une question qui est passée sur le chat. Alors vas-y Gérard, je t'en prie, pose-la.
Oui, exact, c'est Ryan qui pose la question. Alors c'est plutôt un constat, donc c'est à vous de réagir. En fait, il essayait de dire tout à l'heure, il est revenu sur sa question à propos du marché du travail, il essayait de dire que en fait les décideurs ne comprennent pas le langage des passionnés, qui parlent toujours de développement, et qu'il serait temps peut-être de s'adapter, et il pense qu'il faut leur parler plutôt de formation aux utilisateurs. Il faut les rassurer sur le fait qu'il y a bien des techniciens de support aux utilisateurs, donc pour le grand public, Linux disponible sur le marché. Alors, je ne sais pas si vous réagissez là-dessus.
Peut-être une réaction, oui.
Il n'y a pas seulement la formation, c'est que quand un chef d'entreprise décide de refondre son système d'information et de travailler là-dessus, ça va faire un investissement important et il veut être sûr que cet investissement va pouvoir durer longtemps. Et donc, tout ce qu'il va investir, s'il sait que ça va être reversé au pot commun et que d'autres vont travailler sur la maintenance et ainsi de suite, ça va diminuer ses coûts de maintenance. Et ça, c'est un langage que les chefs d'entreprise comprennent très bien. C'est-à-dire, eux, le logiciel libre, ça les intéresse pas en tant que tel. Ce qui les intéresse, c'est qu'effectivement, le coût va diminuer au fur et à mesure du fait qu'il y aura capitalisation des expériences et amélioration des best practices.
Peut-être un complément ou non ou Arnaud, oui, bon ben pas de problème. Alors,
sur l'aspect on va dire super utilisateur formation, il suffit d'aller regarder des sociétés dont le métier c'est faire de la formation, leur catalogue GNU Linux augmente de jour en jour, il devient au moins aussi important que tout le reste des formations qu'ils font. Je ne vais pas citer des gens parce que c'est des concurrents. Donc. Non mais voilà, c'est tout. Même si le marché de la formation, comme tous les marchés de services, il est un petit peu morose, mais c'est pas dû au logiciel libre ou autre chose. Et vous allez sur n'importe quel, dans la publicité, c'est pareil, c'est un peu morose. Mais voilà, dans le marché de la formation et le marché de la maintenance. Je parlais tout à l'heure des migrations qui se font vers des systèmes libres. Donc fatalement, les gens qui font de la maintenance informatique, ils vont être obligés s'ils faisaient il travaille que sur des OS alternatifs avant, il va être obligé de passer sur des vrais systèmes comme Linux pour répondre à la demande des clients. Ça c'est clair quoi. Et sur la remarque que tu faisais en termes de coûts de maintenance qui baissent, etc. Je reprends encore une fois l'exemple d'IBM. Un des enjeux pour IBM de participer très activement à GNU Linux, de proposer des formations GNU Linux. Moi, j'ai fait les premières formations GNU Linux pour IBM il y a quelques années en France. Et leur catalogue depuis, c'était il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc voilà, et leur catalogue ne fait que croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font de la maintenance de leur propre système AX, par exemple, OS 390, etc. Et ça, c'est des choses, le développement et la maintenance de ces systèmes, même si ça leur rapporte de l'argent, ça leur coûte énormément. Quand ils se mettent dans l'aventure du livre de GNU Linux, par exemple, eh bien là, ils ont à côté d'eux tout un tas de compétences où ils peuvent sous-traiter des choses aussi, puisque ils ont quand même leur label entre guillemets. Je veux dire, quand ils ont des gros clients, des pétroliers qui viennent les voir pour du calcul, etc. Bon, quand on a le petit logo bleu IBM, ça fait toujours mieux, même si c'est de la sous-traitance. Donc là, ils ont à leur disposition tout un panel de gens compétents pour la formation, pour la maintenance. Ensuite, eux-mêmes, en termes de rentabilité, jamais aucune entreprise au monde n'aurait été capable de mettre autant de ressources humaines pour le développement et la maintenance d'un système d'exploitation comme dans le projet GNU Linux. Ça n'existe pas. Et même des projets beaucoup plus petits, parce que GNU Linux, c'est presque caricatural. Ça se compte en dizaines de milliers, les contributeurs. Donc, oui, où vous connaissez une entreprise au monde qui est capable de mettre des dizaines de milliers de contributeurs sur un de leurs produits? Ça n'existe pas. Donc voilà. On est sur de l'intelligence collective. On est sur un autre modèle. Voilà. Donc, le reste va péricliter.
Bon, en tout cas, merci. Je vais passer à une autre question, parce que tout à l'heure, Jamie nous parlait justement qu'il avait bénéficié d'une bourse, bon, de l'armée américaine pour développer un peu son projet. Moi, j'aimerais savoir si vous, enfin, Arnaud, bon, Jamie, on le sait maintenant, ou Olivier, vous avez bénéficié de subventions, ou si vous avez eu connaissance de l'existence de certaines de ces subventions en France, en Europe, ou peut-être ailleurs. Est-ce que Non, ou alors peut-être que ça n'a pas été...
Bon, d'accord, Arnaud, bah, oui. J'ai encore parlé, alors c'était bah, écoute, les gens vont se lasser. Alors, oui, moi je n'en connais pas spécifiquement pour le logiciel libre, mais j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est un peu dérivé. D'abord, quand on a une activité où il y a une bonne part de recherche et développement dans notre activité, et qu'on peut justifier de cette part de recherche et développement, ce qui est le cas de Crao par exemple, on peut avoir le statut de jeune entreprise innovante. Parce qu'on est une jeune entreprise, hein. Il faut avoir moins de 8 ans d'existence en tant qu'entreprise. Et donc ça veut dire des exonérations de charges sociales, des avantages fiscaux extraordinaires. Alors ça c'est une subvention formidable. En fait. Mais c'est pas directement lié au logiciel libre, sauf que dans le logiciel libre, dès lors que on est dans une démarche de contribution, de développement et de recherche, qu'on peut justifier donc de 15% de ses dépenses dans ce cadre-là, on peut avoir ce statut. Donc quand on démarre une activité, c'est absolument génial. Et puis un autre exemple qui me vient en tête, ce sont les subventions du Forum social européen dans l'objectif 3-10B. L'objectif 3-10B dans le FSE, ça permet de financer des micro-projets. Les subventions sont de 23 000 euros. Ça permet de financer des micro-projets dès lors qu'ils répondent à un certain nombre de critères en termes d'économie sociale et solidaire. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans le logiciel libre pour des micro-projets, pour aller financer telle sous-partie d'un projet ou tel petit projet qui démarre, etc. Donc voilà, c'est deux exemples qui me viennent en tête. Mais par contre, je n'en connais pas qui spécifiquement disent oui, si vous faites du logiciel libre, alors vous avez une subvention comme ça. Mais
ça va arriver. Oui, peut-être ailleurs qu'en France hein, ou en Europe.
Oui, je sais qu'il y a par exemple ce projet Pipi, c'est ça. Pardon, je voulais pas sortir comme ça. C'est le compilateur Python. C'est pas c'est un projet d'un compilateur. On va l'appeler PyPy. C'est peut-être.
Ouais, voilà, ça sera mieux.
Et je sais par exemple, ils ont bénéficié d'une bourse européenne pour développer un compilateur free software.
Bon, il y a d'autres méthodes aussi, enfin d'autres moyens aussi, je pense, pour l'Europe ou la France, enfin du moins entre autres, j'entends sur tout ce qui va être les logiciels qui vont être utilisés dans les institutions, les administrations. Bon, il y a quand même un sacré revers en ce moment. On se dirige a priori vers des solutions libres pour plusieurs raisons. Peut-être que vous avez des choses à dire par rapport à ça. C'est une sorte de subvention ou de contribution en tout cas de l'État.
En repensant donc subvention européenne, ça me rappelle juste une chose. Parfois il y a des contre-exemples, c'est-à-dire que parfois il y a des projets subventionnés par des financements européens qui commencent leur carrière en se disant on est un projet libre et qui se terminent comme projet propriétaire dans lequel on y a laissé des plumes puisqu'on a contribué en termes de lignes de code et puis que oh au revoir. Un exemple c'est BSCW qui a commencé sa vie comme un projet libre et qui est aujourd'hui un truc donc c'est financé par notre argent, sachez-le, et ça a été propriétarisé. Alors pourquoi c'est arrivé? C'est un projet qui a mal tourné, mais c'est simplement parce que c'est un projet assez ancien, c'est un truc qui a commencé il y a une dizaine d'années, mais simplement parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de conscience réelle politique économique en Europe autour du logiciel libre et autour de ce que ça voulait dire. Et donc, le fait qu'à un moment donné, les gens qui étaient les tenants administratifs, entre guillemets, hein, de ce projet, et dit bon ben maintenant on va le faire payer, à l'époque ça a choqué personne, mais pourtant c'était un projet libre qui a disparu, donc soyons vigilants.
Alors peut-être oui, enfin pour reprendre ma question, en fait j'étais pas tout à fait une question, mais justement par rapport, est-ce que le fait simplement pour un État ou la communauté européenne ou pour des pays de se soucier un petit peu de leur logiciel en essayant de les passer en libre par rapport à tous les avantages que le libre peut apporter, c'est une sorte de contribution? Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à ça, ou on en est justement par rapport à ça, pour éclairer peut-être nos éditeurs à ce sujet? Non, vous avez pas de... Si, Arnaud, il a... Le verbe facile.
Oui, non, j'ai encore un exemple difficile. Il y a un certain nombre de ministères dans notre République qui avaient besoin d'un système de gestion de contenu. Ils ont choisi un système de gestion de contenu qui s'appelle SPIP. Sauf qu'il y avait un certain nombre d'amélioration, mais une modification à apporter pour qu'ils s'intègrent dans leur système d'information qui était existant. Il y a eu un appel d'offres, etc. Il y a eu une société qui a pris l'appel d'offres et bref, pendant longtemps, ils ont refusé de contribuer, de remettre au commun ces modifications qui avaient été faites, demandées par l'État français, payées avec notre argent. Voilà, donc ça c'est absolument scandaleux, donc il faut griller un peu ces gens sur la place publique. Il y a des gens qui ont insisté pour que ça soit remis au pot commun, et finalement c'est revenu dans le pot commun sous le nom de, enfin je cite pas parce que ça n'a pas d'intérêt, et malgré que ce soit revenu au pot commun, plutôt que de reverser vraiment au pot commun, ils ont fait un pot à côté en se disant bah, c'est notre truc, etc. Bon bref, mais sinon ça se passe d'accord. Pas toujours comme ça. La ville de Paris avec ses propres systèmes de gestion de contenu, donc dans la problématique de la gestion d'une ville, reverse au pot commun, a décidé il n'y a pas si longtemps que ça de...
Attends. Alors, il y a quelqu'un qui veut réagir, Frédéric. Rapproche-toi, parce que moi, je veux que ça passe sur les ondes. Voilà, merci.
Moi, je donnerai pas de nom là-dessus, mais en parlant de l'UTES, donc du projet de la mairie de Paris, ce qui est intéressant, c'est que donc le projet a été financé sur fonds publics par la mairie de Paris, donc pour leur faire leur portail, ça s'appelle l'UTES. Ils l'ont diffusé en licence logicielle libre, donc je crois que c'était une licence BSD à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui ont récupéré le projet Lutès pour répondre à des appels d'offres privés pour des portails. Donc ça a été réutilisé derrière dans les entreprises, donc ça fait encore de l'économie locale. C'est aussi l'un des succès du logiciel libre. Et juste pour revenir sur le problème SPIP et l'autre, dont on ne citera pas le nom, ça a quand même été diffusé, donc effectivement on peut récupérer le bout de code, mais ça veut dire aussi que dans le logiciel libre, c'est pas qu'une question de licence, c'est aussi une question de comportement. Effectivement, quand des gens ne veulent pas faire du logiciel libre, même avec des licences libres, on peut arriver à faire quelque part quelque chose qui n'est pas réellement logiciel libre en fait.
Merci en tout cas pour la réaction. Alors, moi je vais poser une question. Imaginons que demain je veux me lancer dans le logiciel libre en tant qu'entrepreneur. Voilà. Quelles sont mes chances? Comment dois-je m'y prendre? Quelle piste dois-je suivre? Alors je sais pas. Peut-être comme vous avez sûrement commencé à un moment ou à un autre. Alors c'est des questions un peu compliquées parce que on peut imaginer que c'est pas, ça dépend de beaucoup de choses, mais est-ce que oui?
La réponse sera si l'idée c'est juste logiciel libre et qu'il y a rien derrière, on n'ira pas bien loin. Hein.
Oui, enfin bon.
Donc après, il faut une connaissance et il faut une compétence. Nous, on venait du monde de la gestion et il suffisait juste qu'on rajoute logiciel libre avec tout ce qui allait avec, avec toutes les conséquences, tous les avantages, tous les inconvénients, et qu'effectivement on avance. Mais ça n'a pas été de dire je veux faire du logiciel libre et rien que du logiciel libre. C'était je veux continuer un certain métier que je sais faire. C'est avant tout le métier qu'on sait faire. Et on tire tous les avantages du logiciel libre.
D'accord. Ouais, j'entends bien. Enfin, ce que j'essayais de demander, en fait, simplement, c'est si je veux me lancer dans le logiciel libre, est-ce que j'ai une chance de percer? Est-ce que j'ai une chance de réussir? Est-ce que, bon, on a vu tout à l'heure qu'apparemment ça se passait bien pour vous, mais est-ce que c'est un marché qui s'ouvre et qui se développe vraiment, vraiment sérieusement?
Ouais. Je pense que je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. La différence pour une société entre le propriétaire et le logiciel libre peut se définir par une certaine nombre de critères. Et ça ne veut pas dire que le logiciel libre remplit tout et le propriétaire remplit tout. Toute société a un besoin. Il faut le trouver et il faut mettre son offre en face en espérant, en utilisant du logiciel libre. C'est clair qu'il y a plusieurs façons de se différencier facilement avec le libre, mais
à la fin de la journée, on a besoin d'avoir un argument convaincant vis-à-vis de votre produit, de surtout votre service.
D'accord, très bien. Oui, attendez. On va prendre le micro, une réaction dans la salle.
Bonjour, donc moi je suis Emmanuel Saunier, je suis directeur d'une structure qui s'appelle Réseau 2000. En deux mots, je trouve qu'en ce moment il y a une certaine bienveillance des collectivités, la collectivité locale, des collectivités territoriales, vers les gens qui développent du libre. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant, que ce soit la ville de Paris ou l'État. Vous citiez tout à l'heure Agora, Spip Agora. Non, vous n'avez pas donné de nom. Mais enfin moi, de mon point de vue, j'ai pas bien suivi l'affaire, mais nous Spip, on travaille beaucoup avec Spip, on développe beaucoup de sites avec Spip. Bon, les sources d'Agora, on les a eues, on les a trouvées sur Internet, donc je suis pas au courant de toute l'histoire dont vous parliez avant, quoi. On a installé Agora, effectivement, ça fonctionne pas bien, mais bon. il n'empêche que c'est un produit qui vient du monde du logiciel du libre, qui a été financé par la collectivité et qui a fait bosser des développeurs. Donc après, c'est ça le point de vue qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la prise en compte par les pouvoirs publics, difficile certes, mais qui avance, de la nécessité d'avoir autre chose que des logiciels propriétaires, ça devrait permettre à des développeurs de trouver un peu de boulot. Et à mon avis, de plus en plus. Par contre, j'ai envie de dire qu'il y a un ennemi dans la communauté du libre, c'est la communauté elle-même. Parce que je sais que il y a des clans, il y a des castes, il y a des familles, il y a des histoires. C'est toujours un peu compliqué parfois. Pour nous qui sommes pas du tout là-dedans, qui sommes arrivés dans le libre par l'expérimentation sociale, c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec un monde dont les règles sont dures à comprendre, dont les modes de fonctionnement, les us et les usages sont pas faciles à appréhender. Des fois, nous, on aimerait aussi contribuer, mais on sait pas bien comment faire. Donc, on se renseigne, on va sur les tutoriels, les trucs, les machins. Mais bon, voilà. C'était une espèce de réponse globale. C'était pas méchant ce que je disais là, mais juste, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense que ça, c'est le point important, c'est ça, c'est que la prise en compte par l'État et par les collectivités, ça donne du boulot à des développeurs. Donc, de là, c'est une bonne chose. Merci.
Ben, je vous en prie. Bon, très bien. En tout cas, ça a complété un petit peu toutes les réactions. Alors bon, je vais conclure parce qu'on a bientôt terminé la table ronde, même si à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Sur le chat, toujours rien, Gérard. Apparemment, ils sont comblés, les auditeurs, là.
Oui, ils écoutent attentivement, en tout cas.
Bon, ils écoutent attentivement, bien sagement. Bon. Très bien. Alors, je vais enchaîner sur une dernière question. Alors peut-être pour inspirer quelques futures personnes qui vont investir un petit peu dans le libre. Alors, est-ce que vous avez eu connaissance, sans vouloir même aller marcher sur vos plates-bandes, mais n'existe pas quelques niches qui n'ont pas encore été exploitées par le logiciel libre et qui ont de l'avenir, dans les marchés ou tout autre? Parce qu'on voit souvent, les plus connus des logiciels libres, on voit souvent qu'ils reprennent des logiciels qui existent. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est pas tout à fait le cas parce que c'est des marchés, des choses assez précises. Mais est-ce que vous n'avez pas une idée qui pourrait inspirer ou donner quelques vocations?
Moi, j'ai juste une demande. S'il y a des gens qui veulent travailler sur l'intégration et la gestion des profils colorimétriques dans toutes les applications graphiques, photographiques dans le libre, venez, parce que j'en ai marre de dire à mes camarades photographes ou graphistes, mais venez bosser sous GIMP, etc. Non, Photoshop c'est mieux parce que ça gère ça correctement. Donc voilà, ça c'est un petit marché de niche qu'il faut venir exploiter.
Ah, c'est le moment de faire des appels, oui.
Un marché qui n'est pas du tout un marché de niche, c'est le domaine de la gestion. Alors aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose encore dans le domaine de la gestion, donc c'est pas du tout un marché de niche qui ne peut faire que croître jusqu'à présent. Donc tous les gens qui ont des compétences dans le domaine fonctionnel, dans le domaine compréhension des processus de gestion, il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la gestion, dans le domaine du logiciel libre. Donc là, c'est pas du tout une niche et il y a réellement beaucoup, beaucoup d'opportunités.
Très bien, oui, peut-être Jamie.
Bon, moi je vais rester dans le monde du développement. Je dirais, intéressez-vous à Eclipse.
C'est un projet. C'est-à-dire, peut-être pour éclairer.
Donc, c'est le projet d'un RDA. Excusez-moi, je ne sais pas comment dire en français.
Dis-le en anglais, on traduira.
Integrated Development Environment, qui en fait...
voilà.
Idiot, voilà. Voilà. Une idée open source qui va avoir énormément de ramifications dans le monde professionnel du développement du logiciel et des applications.
D'accord, quelques pistes en tout cas intéressantes.
T'as IBM, ceux qui nous écouteront. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse là-dedans, donc.
Bon, apparemment, en tout cas, les appels ont été lancés. Il y a eu quelques pistes. Alors, il paraît, Gérard, tu as une dernière question là qui sort du chat. Là,
très spécifique. Donc, c'est le libre et les utilisateurs handicapés. Est-ce qu'il existe des applications braille, par exemple, de type reconnaissance vocale
Ça peut être aussi une niche. Ça peut être. Il peut y avoir encore beaucoup de choses. Bon, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour être venu et puis avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, c'était une bonne continuation et puis bonne chance pour vos activités, que ça se passe au mieux. Je vous remercie et puis, je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, une bonne soirée. Je vous remercie pour tout. On va arrêter là l'émission et la table ronde. On mettra tout ça en ligne. Bon, ça, c'était du direct, mais on remettra tout ça en ligne toujours sur le site Carrefour Numérique de la Cité des Sciences, mais aussi probablement sur le site de nos partenaires. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et un bon appétit. Et puis, une bonne continuation pour la fête du livre, car la 4e édition vaut le détour. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Mais qui sont-ils, ces programmeurs? Qu'est-ce qui les pousse à faire du logiciel libre?
Il faut bien voir que dans le domaine du logiciel libre, il y a à la fois des bénévoles, des passionnés, ainsi que des personnes qui sont salariées, qui sont payées pour travailler, salariés ou indépendants d'ailleurs, en tout cas des personnes qui sont payées pour développer du logiciel, assurer du support, de la traduction, etc. Donc les bénévoles sont motivés par leur passion ou par leurs besoins. C'est soit des convaincus du logiciel libre comme il y a des gens passionnés de photographie, de peinture, de musique, etc., il y a des passionnés d'informatique, de développement informatique, donc qui choisissent de développer du logiciel libre sur leur temps libre. Et il y a aussi des gens qui ont simplement un problème à résoudre et qui, ayant résolu ce problème en écrivant un logiciel libre, se disent que ça intéressera d'autres personnes et que d'autres personnes pourront même contribuer à améliorer le dit logiciel. Donc c'est la deuxième catégorie. Du côté des personnes qui sont payées pour assurer le développement, la question se pose un peu différemment. C'est donc leur entreprise ou leur client qui a sollicité un développement, une installation, une intégration dans un système d'information.
Alors, petite info aussi en passant avant que vous déconnectiez. Sachez que ça continue sur http://www.servaux.org, mais sous flux vidéo. Donc, connectez-vous dessus. Ils vont faire toute une démonstration, là, entre autres, sur le streaming. Et ils vont filmer un petit peu ce qui se passe dans l'install party qui a lieu dans le Carrefour Numérique de la Cité des Sciences. Voilà, je vous remercie. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée parce que je vais devoir rentrer me coucher.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Les logiciels libres, donc, sont pour la plupart gratuits, mais il y en a des payants. Alors, on va plus parler des gratuits dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en clair, comment font ces programmeurs qui développent des logiciels libres pour justement vivre, avoir quelque chose dans son assiette?
Donc, quand j'ai défini le logiciel libre, je n'ai pas parlé à aucun moment de questions de prix, de gratuité ou pas. Ce qui définit le logiciel libre, c'est bien les quatre libertés. À partir de là, on peut soit donner le logiciel libre, soit le vendre. Et donc, il y a un certain nombre de modèles économiques qui se sont mis en place pour diffuser du logiciel libre de manière payante, de manière commerciale. Donc, le modèle le plus couramment utilisé concerne les services, à savoir fournir le logiciel et assurer les services derrière. Ça peut être du support, ça peut être de la personnalisation, ça peut être aussi de l'adaptation, par exemple, rassembler un certain nombre de logiciels et les faire fonctionner ensemble. Ça peut être de la traduction, etc. Et ça peut être de la vente en grande surface pour les particuliers, du conseil, etc. C'est le modèle le plus couramment utilisé. On peut aussi avoir, dans le cadre d'une administration, par exemple, un besoin particulier qui va nécessiter de procéder à la commande d'un logiciel libre. Et donc d'avoir un développement, la première version sera bien évidemment payante. Et ensuite, les versions peuvent, par exemple, être utilisées par toutes les administrations similaires. Par exemple, au niveau d'une région, peut payer le développement en logiciel libre d'un produit dont elle a besoin et ensuite en faire bénéficier toutes les autres régions.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Alors, j'ai une question plus classique, parce qu'on parle souvent dans le logiciel libre du fameux code source, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce que beaucoup de gens se demandent exactement ce que ça peut être.
Une analogie classique pour définir les notions de code source et de code exécutable, c'est de revenir à de parler de cuisine. Un programme, ce n'est rien de moins qu'un plat cuisiné, un résultat fini. Et la recette du programme, c'est l'équivalent, la recette d'un plat cuisiné, pardon, c'est équivalent au code source d'un logiciel. Donc la recette, c'est la façon dont il faut réaliser un certain nombre d'actions, est-ce qu'il faut saler, poivrer, combien de temps il faut faire cuire, quels sont les ingrédients, etc. Et au niveau d'un logiciel, c'est exactement pareil, il y a un code source qui dit quelle est la fenêtre qu'il faut ouvrir, quelle est l'action à réaliser, qu'est-ce qui doit se passer dans telle circonstance, etc.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Quelle est la contribution, quelle est la part des universités ou des chercheurs dans le logiciel libre?
Alors, on parlait tout à l'heure de Richard Stallman, le fondateur de la fondation du logiciel libre. Il est lui-même issu du milieu de la recherche scientifique, puisqu'il était chercheur au MIT aux États-Unis. Il faut voir aussi qu'un certain nombre de logiciels libres proviennent des travaux dérivés de l'université de Berkeley. Il y a donc un grand nombre de logiciels qui proviennent du domaine scientifique. Et puis l'esprit même du logiciel libre est très proche de la recherche scientifique. C'est les mêmes principes de contribution à la culture globale, de partage, d'entraide, etc. que l'on peut trouver dans le domaine scientifique.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
Quelle chance ou quelle place souhaite avoir le logiciel libre face justement aux logiciels propriétaires qui sont en ce moment encore, je pense, prédominants sur le marché?
Alors, actuellement, il faut bien voir que l'expansion du logiciel libre lui donne un poids important. Il est notamment reconnu comme le principal concurrent de l'éditeur en position dominante, qui s'en sert donc pour justifier le fait qu'il n'est pas en une position complètement dominante, mais qu'il y reste un petit peu de concurrence. Donc il y a un poids qui est non négligeable. Maintenant, l'important pour les développeurs de logiciels libres, et les utilisateurs aussi, c'est de bénéficier de solutions libres qui soient donc disponibles dans tous les domaines possibles, ce qui est largement le cas actuellement, où on a du logiciel libre qui est présent du domaine de l'embarqué, des baladeurs numériques, des téléphones portables, jusqu'aux satellites, en passant par stations multimédia pour l'audiovisuel jusqu'au supercalculateur. Et en dehors de ces domaines-là, on en trouve dans tous les secteurs du domaine, dans tous les domaines logiciels, que ce soit de la bureautique, du graphisme, du son, en particulier du développement, mais donc dans un très large choix. Ça peut être comme pour EDF qui dispose par exemple de logiciels libres pour calculer la tension des câbles entre ses pylônes jusqu'à le bureau de l'utilisateur qui va utiliser un navigateur libre comme Firefox pour aller sur Internet.
Reportage avec Benoît Cibot, président de l'April.
N'y a-t-il pas un danger du fait, imaginons que mon banquier utilise, ou même la sécurité sociale utilise un logiciel propriétaire, hein, que ce soit Microsoft ou autre, là n'est pas le problème. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que, ne connaissant pas ce qui se passe derrière ces logiciels, on pourrait imaginer que ces institutions qui développent des logiciels propriétaires ne pourraient pas mettre des petits logiciels espions qui pourraient récupérer des informations, ce genre de choses? Est-ce que c'est pas un risque, ça? Est-ce que le logiciel libre, justement, en ouvrant ses sources, il n'arrive pas à rassurer un peu, justement, ces institutions qui utilisent des logiciels?
Alors, c'est non seulement un risque, mais on connaît aussi un certain nombre de cas réellement avérés. Donc, c'est déjà produit. Il y a un certain nombre de portes dérobées dans des logiciels, qu'il y a des fonctionnalités cachées, etc. À titre d'exemple, on peut par exemple se référer au rapport du député Bernard Carayon, qui concerne la sécurité nationale et l'indépendance économique du pays, qui indique que l'utilisation de logiciels propriétaires, en particulier d'un seul fournisseur, est une menace importante pour la sécurité du pays.